Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, bienvenue à tous dans ce troisième épisode de la fameuse maintenant déjà émission Underscore. Je suis très heureux de vous retrouver et de retrouver mes invités. Des têtes qui changent, vous ne les avez pas vus les deux. Jean était là pour le pilote.
Moi on m'a vu dans ta vidéo
de présentation. Voilà, exactement. Mais il y a eu un pilote que vous n'avez pas vu où il y avait Jean. Donc sa tête vous dit peut-être déjà quelque chose. Jean Sabouret qui est mon associé sur l'agence Frame 55. On va peut-être revenir un petit peu dessus, pas forcément dans les grandes lignes. Si ça vous intéresse, vous avez une vidéo dédiée sur ma chaîne YouTube. Et Stan Lark, mon invité de marque d'aujourd'hui, que je suis extrêmement content d'accueillir.
Salut.
Ça va?
Ouais.
Les gens te connaissent peut-être, mais alors il faut vraiment que ce soit les plus anciens, parce qu'on avait fait une vidéo ensemble.
Il y a très longtemps, on était tout bébé comme ça. Là.
Voilà, c'est ouais. Ça. Ça date de quoi? Du CES 2018, on a dit?
CES 2019, ouais, et on avait fait une vidéo ensemble peut-être quelques mois avant.
Quelques mois avant, exactement.
Ouais. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais.
Ouais. Tu vas pouvoir nous parler de plein de sujets intéressants. Tu es donc entrepreneur, on peut dire le gros mot, et tu as monté une boîte assez incroyable qui s'appelle Lynx, dans le secteur de la réalité augmentée. Je peux dire,
ouais,
je me trompe
ouais,
pas.
Ouais, on peut dire ça, ouais.
Tu vas pouvoir nous préciser tout ça, nous expliquer les dingueries que tu fais, parce que quand même, c'est des dingueries, honnêtement, vous allez voir. Et voilà, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir, tout simplement, donc je tiens à le signifier. Et puis Jean aussi, ça fait très plaisir, puisque on a eu le temps de s'entraîner un peu à l'exercice. En fait, toi, ouais, t'as fait 15 émissions, mais c'était des émissions toutes offline, virtuelles.
L'avantage, c'est qu'on se voit pas tous les jours, surtout.
Oui, voilà. Mais là, au moins,
on partage pas du tout les mêmes bureaux, quoi.
Exactement.
Ouais. On se voit jamais.
Si vous saviez pas, Frame 55 est juste à côté, littéralement, de cet endroit. Ah, mais Stan Laroque était à Ethic. Exactement. Et en fait, c'est d'ailleurs dans ce cadre-là, si on dit toute la vérité, c'est parce que moi, j'ai bossé avec Ethic, du coup, pour une vidéo de type sponsorisé, n'est-ce pas? Et en fait, ce qu'aiment bien faire les écoles, c'est mettre en avant leurs meilleurs éléments. Et donc, Tic m'a dit, on a un petit génie chez nous. Il s'appelle Stan. T'as vu, je te sauce déjà. Il s'appelle Stan et il bosse sur des trucs de dingue. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Ouais. Comme quoi, un bon sponsor, de temps en temps, ça fait des belles rencontres.
Ouais,
c'est ça
fait.
La morale de l'histoire.
Ouais. Mais ouais, c'était quand j'étais encore en école, donc ouais, c'était il y a 3-4 ans.
3-4 ouais. ans, c'est ça. Et beaucoup de choses se sont passées depuis, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Pour ceux qui vous veulent savoir un petit peu quel est le programme de l'émission, c'est une émission qui est placée sous le signe, on va dire, de l'entrepreneuriat et plus précisément de la réalité augmentée et peut-être un peu de réalité virtuelle. Vous voyez peut-être des casques qui sont ici disposés sur notre magnifique table. Est-ce que tu peux nous dire nous faire un petit tour de table?
Ouais. Bah en fait, j'ai ramené un Oculus Quest 2 que vous pouvez acheter à la Fnac ou chez Darty, qui voilà. Est un casque du commerce pour 300€, qui est le super cadeau de Noël, pour faire de la réalité virtuelle.
Ouais.
De l'autre côté de la table, vous avez un HoloLens 2. Alors ça, c'est un casque plutôt de réalité augmentée qui ouais. est fait par Microsoft, qui coûte...
une blindasse.
De la grosse caillasse, quoi. C'est, on est à autour de $3500 okay. pour la version développeur. Et au milieu, là, les plus beaux.
Voilà.
voilà, donc vous avez des prototypes
les
de la...
Les plus beaux étaient complètement impartiels, on est d'accord.
Ouais, oui, non, c'est pas du tout biaisé. Non. En fait, c'est les prototypes de Lynx V1. Donc le produit qu'on s'apprête à mettre sur le marché. Donc j'en ai amené un. Qui est noir et l'autre tout transparent.
Ça a montrer, bien changé quand même. Hein.
Pour vous montrer à quel point c'est compliqué ce qu'il y a là-dedans. voilà, donc
il y a des petits fils électriques, d'accord.
Ouais, il se passe des choses, ouais, il y a du monde là-dedans. Ouais. Donc je suis venu avec quelques trucs.
C'est fou comment ça a changé depuis ce que moi j'ai vu.
Il n'y a plus de câbles. Hein.
Ah, c'est dingue.
Déjà, il n'y a plus de câbles.
Bah, toi, il y avait littéralement un PC à côté quand même.
Ça ouais. ressemblait à quoi quand tu l'avais vu toi la première fois?
Moi, la première fois, c'était une bonne grosse bricasse. Avec des gros fils un peu dans tous les sens et un PC littéralement embarqué avec, c'est-à-dire que tu
te mets le premier casque de verre quoi.
Voilà, tu te balades, tu te balades avec trois valises concrètement.
Mmh. Ouais.
J'ai fait une démo qui était vraiment pas mal, qui était un peu clunky quand même.
Bah, démo proto, voilà. Carton scotch.
C'était ce qu'on appelle un proof of concept. Mais voilà, en gros, c'était déjà une expérience spéciale à l'époque et pas du tout habituelle sur les casques de verre parce que c'était des casques de verre. Enfin, ton casque de verre avait la particularité d'avoir des caméras qui faisaient que tu prenais l'image de l'environnement et que tu la renvoyais dans les yeux. Ça peut paraître un peu absurde dit comme ça quand on ne sait pas ce que ça permet de faire, mais concrètement, vous mettez un casque pour voir ce que vous voyez sans le casque.
C'est un peu ça.
C'est un peu ça.
Ça paraît débile, mais ça paraît permet de faire des choses de ouf.
Mais ouais. C'est le principe même de la réalité augmentée au final, parce que du coup, c'est pendant l'étape entre les deux, finalement, entre le moment où tu récupères l'image et le moment où tu la reprojettes, tu peux effectuer des modifications. Et c'est ça qui est complètement...
Oh là là, il a tout retenu.
J'ai bien
l'information. Ah ouais, super, c'est ça.
Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu comment ça marche, quelles sont les complications par lesquelles tu es passé. Et ensuite, dans un deuxième temps pour cette émission, ce sera l'occasion aussi de faire intervenir l'expertise, finalement, de gens... Non, pas l'expertise.
Oula, quelle pression il met, lui, direct. L'expertise.
Non, mais
si tu comptes sur mon expertise sur les casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée.
J'allais parler plutôt de l'entrepreneuriat de façon générale. Ouais, ouais. Puisque c'est plutôt un partage d'expérience qu'une expertise.
Ouais, l'expertise.
Parce qu'on est tous un peu novices.
On apprend.
Alors peut-être, justement, c'est ça qui est bien, c'est que toi, t'es peut-être le moins novice d'entre nous. Nous, on est vraiment à 6 mois d'âge, tu vois, sur la boîte.
Donc, sur l'agence,
sur l'agence. Donc, on en a plein d'informations à te soutirer et de conseils à choper. Du coup, ça va être trop bien. On va pouvoir débattre de l'entrepreneuriat en France. On va peut-être pouvoir parler un peu de la French Tech.
Ouh là là.
Ouh là là. Un sujet passionnant. On va pouvoir parler d'argent, donc de ce qui est comment on finance finalement une entreprise, de levée de fonds, qu'est-ce que ça veut dire.
De moulaga,
quelles sont les conséquences de faire des levées de fonds, est-ce qu'il faut en faire, est-ce qu'il ne faut pas en faire. Enfin voilà, c'est hyper passionnant comme sujet. Ce sera en deuxième partie de l'émission. Et enfin, je vous ferai une petite revue de presse, des petits sujets. Voilà, j'utilise des termes techniques. Des sujets en ce moment, il y a des trucs très très chauds, notamment ce matin, il y a eu un événement.
Chaud, c'est peut-être pas le bon mot pour ce qui se passe.
Chaud des mots là.
La glissade. Il y a eu des événements assez malheureux qui se sont passés aujourd'hui dans la tech française. Et on aura le temps de revenir là-dessus. Puis voilà, ça nous fait un bon programme.
C'est un programme, on ne peut plus intéressant.
Un peu plus qualitatif, n'est-ce pas?
Exactement.
Donc Stan, est-ce qu'on peut refaire peut-être un historique? Parce que les gens te connaissent peut-être un petit peu de ma vidéo. Peut-être éventuellement, ils ont passé 2-3 articles, ils t'ont vu aux côtés d'Emmanuel Macron.
Peut-être.
Peut-être.
Voilà. On en saura plus.
Globalement, il nous faut un historique. Il nous faut un petit historique. D'où tu viens, comment t'as appris le dev quand tu t'es lancé dans ce projet complètement dingue, alors que tu as quel âge?
Je vais avoir 27 ans ce mois-ci et ta question me fait un peu mal du coup.
Mais au moment où tu l'as lancé, t'avais 24 du coup.
23. Ouais, c'est ça, j'avais 24 ans. Ouais.
Donc c'est quand même pas anodin. Donc d'où ça vient tout ça? En fait, d'où tu viens?
Avant que je commence à parler du sujet qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire moi, je voulais juste quand même te dire que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu physiquement, mais je suivais un peu de loin ton aventure et peut-être que toi aussi un peu tu as vu ce que je faisais. Et là, de voir tes locaux et ce que tu pousses, ce que vous faites tous, c'est super chouette.
C'est vraiment super chouette.
C'est cool de voir des gens comme toi qui essaient de... Voilà, pousser la techno, c'est propre.
Trop bien, ça fait plaisir. Et surtout, il y a un côté tête dans le guidon que nous, on peut avoir parce que tu sais, tu vois les semaines après semaines et tu fais des trucs.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est la vision extérieure est sympa à choper. Quoi.
Ouais, parce que la première fois qu'on s'était vu, qu'on avait fait cette vidéo ensemble, tu étais venu avec un autre jeune qui était, je crois, en alternance avec toi. Ouais, ou ton coloc.
J'ai dû faire semblant que c'était un employé.
Et c'était déjà top parce que, tu vois, au final, les vidéos étaient déjà vachement bien prises. Mmh. Le contenu était cool, il faut le dire. C'était bien
régales,
mis en scène.
Tu me régales.
Et là, deux ans. C'est industriel ici. Là, vous vous rendez pas compte, vous voyez pas tout ce qu'il y a derrière, mais c'est une usine ici.
Building,
voilà.
En fait, complètement. Ouais.
C'est faux, bien sûr. Mais...
C'est cool. Mais donc, en gros, pour rapidement vous faire la présentation, je m'appelle Stan Larocque et mon travail, mon but dans la vie en ce moment, c'est de concevoir et distribuer un casque de réalité mixte. Alors, réalité mixte, c'est réalité virtuelle et réalité augmentée, on y reviendra. Mais en gros, ce que je fais avec mon équipe, c'est qu'on conçoit du hardware.
Ouais.
Donc ça, c'est des gros mots en France. Le hardware, oulala, comment il fait ça?
Dangereux.
Ouais, dangereux. Mais on fait du hardware. Donc quand tu fais du hardware, tu fais aussi du software. Hein, parce que tu vas pas livrer un truc comme ça. Et on fait le hardware, un des hardware les plus compliqués, honnêtement, au monde en ce moment. C'est-à-dire que quand tu regardes nos concurrents...
Seulement ça.
Je m'explique.
Tes concurrents, c'est Microsoft, quoi.
Mes concurrents, c'est Microsoft, Facebook, Apple... et HTC, ils sont encore là.
Ouais.
Magic Leap, je vais même pas en parler ce soir. Mais grosso modo, c'est des gens qui claquent 1 milliard par an dans la partie AR/VR de leur entreprise. Et donc nous, on avait 2 millions d'euros de budget pour faire ce que vous avez sur la table ce soir, c'est-à-dire le budget taille crayon en fait de mes concurrents.
Ouais, concrètement. Voilà. Ouais.
Et donc ce qu'on a accompli avec mon équipe, et vraiment, je suis très fier de les représenter ce soir aussi, hein, parce que c'est tout ce travail qu'on a apporté de faire ce hardware, c'est très compliqué parce que c'est du hardware que tu mets sur la tête.
Alors, à quoi ça sert, en fait, concrètement? Qu'est-ce qui fait que... qui a besoin de ça, en fait, déjà? Est-ce que moi, demain, j'ai un intérêt à acheter un Lynx? Et qu'est-ce que ça
Lynx
fait?
Ou Lynx?
Un Lynx.
Tu dis ce que tu veux.
Ok.
Moi, je suis français, je dirais Lynx.
Voilà, super. Mais en gros, si tu veux faire la réalité virtuelle,
ouais,
t'as pas forcément intérêt à acheter un Lynx. Parce qu'on a un prix qui est plus élevé que l'Oculus Quest 2, par exemple, ou qu'un HTC Vive Focus, un casque... Là, je vais comparer que avec des casques sans fil.
Ouais.
Okay, parce que quand tu as un PC qui consomme comme un tank à côté, c'est
oui,
de la triche.
Okay, c'est, de la triche,
c'est un autre tri, c'est un autre segment de marché, ouais, c'est autre chose. Là, je vais vraiment parler des casques autonomes. Et en fait, un Oculus Quest 2, alors, même s'ils le vendent à perte, ils le vendent du coup pas cher.
Ouais.
Et donc, il y a des questions de vie privée et tout. Donc, sinon, tu peux acheter un HTC, mais un Lynx sera plus cher que ces casques-là. Ouais. Pour
là,
faire
là,
que de la VR.
1499.
Voilà, donc on est autour de 1400 euros pour notre prix annoncé.
Déjà, j'ai l'impression que ça a bien baissé par rapport
Ça a beaucoup baissé. Et ce que je suis en train de faire là avec notre fabricant à Taïwan, qui est Compal, hein, avec qui on bosse avec Qualcomm, c'est que je cherche à faire baisser ça encore. Il y aura peut-être des annonces d'ici un mois ou deux. Mais. On a un prix qui est juste pour la VR plus élevé. Donc, tu n'as pas forcément envie de te dire « Ah bah, Lynx, ça doit être la solution pour moi.
Mm. »
Par contre, si tu regardes de l'autre côté du spectre de la réalité...
HoloLens, c'est quoi? 3000
HoloLens, c'est 3 500 $ la version développeur. C'est 5 000 $ la version entreprise.
Il n'y a pas de version grand public aujourd'hui, HoloLens.
C'est pas pour le grand public. C'est des applications industrielles.
Moi, je veux l'acheter pour moi, pour chez moi.
Tu peux.
Mais
tu peux, si tu as beaucoup de moula, effectivement, hein, tu peux, et c'est une expérience assez intéressante, on l'allumera tout à l'heure, et je te montrerai, tu vois, l'expérience, qui est certes limitée, mais elle est ce qu'elle est aujourd'hui, et Microsoft a fait un sacré taf, mais c'est pour des applications B2B, industrielles, militaires, ouais, médicales.
Alors que moi, je vais l'acheter, je vais pas avoir d'usage.
Il n'y aura pas d'App Store, tu vas pas pouvoir faire tout ce que tu as dans des casques de réalité virtuelle.
C'est dommage, parce que les pubs Microsoft, elles font envie, hein, souvent.
Ouais, mais elles sont cheatées. Hein. Ouais. Enfin, je les vois à l'écran. Alors, celle-là, elle n'est pas si cheatée que ça. En fait, là où elle est très cheatée, c'est sur la qualité de l'image. C'est-à-dire que Julia, là, qui est à l'écran, qui travaille à l'UX chez Microsoft, l'image qu'elle montre, ses mains blanches, en fait, ce que tu vois, les couleurs sont dégueulasses.
Ouais, d'accord. C'est bien plus net pour la pub, quoi.
Ouais, c'est des images incrustées via un autre point de vue. Ça correspond vraiment à l'emplacement des hologrammes qu'on voit. Mais typiquement, elle ne voit pas tous les hologrammes. Elle a un champ de vue très réduit. HoloLens 2, en l'occurrence, c'est 52 degrés diagonale, donc
52.
40 degrés horizontal.
C'est peu, ça.
C'est pas beaucoup. C'est comme si tu tenais tu vois, un magazine à bout de bras et c'est la fenêtre par laquelle tu vois les hologrammes. C'est pas ouf. C'est pas
déjà
ouf.
Que tu peux avoir
tu peux pas avoir un hologramme dans plus que ça.
Bah, si tu veux le voir, il faut bouger la tête ou t'éloigner, ce qui est insupportable.
Et donc, ça coupe.
Parce que tu peux pas avoir un truc qui est là, genre.
Exactement.
Dans ton champ de
vision.
Et ça, on le voit pas du tout dans la pub.
Et ça, tu le verras que quand tu auras acheté le truc. Et donc, il y a un effet déceptif.
5000 balles, on me rappelle.
Ouais, 5000 balles. Mais
sans rendre compte à ce moment-là,
il y a un petit effet déceptif chez HoloLens et chez les autres casques comme Magic Leap, etc. Parce que le champ de vue et la qualité d'image n'est pas reflété dans les pubs et ce qu'ils annoncent, en fait. Donc, je me répète, 40 degrés horizontal sur HoloLens. Mais quand tu es en réalité virtuelle dans un HoloLens, dans un Oculus Quest 2 en l'occurrence, tu es plutôt tout de suite à 90-100 degrés.
Ouais.
Donc tu respires.
Tu respires. Et j'allais dire, et encore, tu peux. Moi, les premiers qui testent un peu la VR, qui n'en ont jamais vu, ils peuvent avoir un peu cet effet
tunnel.
Qui regarde à travers des jumelles. Quoi.
Ouais, tout à fait.
Alors que tu dis qu'on est sur 90 degrés au moins.
Voilà.
Donc en là, fait, 40, c'est vraiment rien. Quoi.
Pour donner un ordre de comparaison, le champ de vue humain. Quand tu gardes tes yeux vraiment devant toi, c'est à peu près 170 degrés.
J'ai des gens qui sont en train de tester.
quand tu gardes ta tête droite, vous pouvez faire l'expérience chez vous. Ouais. Quand tu gardes ta tête droite et que tu bouges tes yeux sur le côté, ton champ de vue vertical et horizontal augmente et en fait le champ de vue total humain c'est entre 200 et 220 degrés.
D'accord.
Alors pourquoi c'est pas un chiffre unique d'ingénieur optique? Pourquoi ça bouge? Parce qu'en fait, en fonction de ta structure osseuse, de tes yeux, etc., chacun
tu
a...
Tu peux plus ou moins tourner tes yeux, en fait.
Voilà, chacun a une valeur différente, mais grosso modo, c'est l'ordre de grandeur. Et donc, on n'a pas vraiment de masque d'outils que tu mets sur la tête qui couvrent tout ce champ de vue. Il y en avait un qui était français, qui s'appelait StarVR, qui était un casque de VR dingue, qui était fait avec Acer. Et malheureusement, le projet n'a jamais vu le jour, mais j'ai trois de mes collègues qui ont travaillé sur ce casque, qui travaillent chez moi aujourd'hui. Donc, on a un exemplaire au bureau.
Il y a une fuite de cerveau.
Il y a eu une fuite de cerveau. Et franchement, on a pas le champ de vue qu'avait le StarVR. Mais on a un champ de vue intéressant, c'est-à-dire que dans Lynx, on a un champ de vue de 90 degrés circulaire, c'est-à-dire 90 degrés vertical et horizontal.
D'accord.
Ce qui n'est pas hyper dingue pour la VR, mais ce qui est dingue pour l'AR. Ouais. Parce que quand tu compares ça à HoloLens 2, la vue que tu as par la caméra, elle est dingue.
Pour récapituler, comment tu arrives à faire ça? Parce que là, tu nous parles d'une amélioration de x2,5 ou x3, donc par rapport à Microsoft qui a 1 milliard de budget. Donc tout de suite, avant de crier à l'arnaque, tu vois.
Voilà, tout de suite.
Avant de créer l'arnaque, je vais te demander, vous avez forcément pris une stratégie différente du coup.
Tout à fait. Il y a une approche technique qui
c'est
est différente.
C'est quoi la stratégie différente?
Et alors, j'invite Internet là, à regarder la vidéo qui est projetée. Ouais. Ça, pour tout vous dire, aucun constructeur n'a jamais fait ça. D'accord. C'est-à-dire qu'on a pris une GoPro, on l'a posée devant notre lentille à travers le masque, à travers l'œil gauche, là en l'occurrence, et on a filmé à travers.
Et là ce qu'on voit au milieu, c'est pas la réalité en fait, c'est un écran.
Ce que tu vois au milieu, c'est pas quelque chose de transparent. C'est un écran, c'est un retour caméra. Sur un écran LCD. Et ça, faut bien le comprendre.
Mais ce qui est dingue, en fait, moi, ce que je trouve dingue, là,
c'est
dans
la continuité
vidéo,
avec.
Parce que moi, quand j'avais testé il y a 2-3 ans, du coup.
T'as bien le tunnel.
Mais oui, t'as un effet.
Lag aussi, ouais.
Tu vois, tu es parfaitement conscient que tu n'es pas en train de voir la réalité exactement telle qu'elle. C'est-à-dire qu'au moment où t'enlèves.
C'est un retour d'un écran, quoi.
Oui,
c'est un écran.
Quand t'enlèves le casque. Il y a plein de choses qui changent. C'est un peu comme quand tu changes le FOV dans un jeu vidéo. Là.
Oui, voilà.
C'est un peu ça. Tu l'enlèves et puis tu n'as pas du tout l'impression d'avoir eu des vitres devant les yeux. Tu as eu l'impression d'avoir un jeu vidéo où en fait on filme la réalité.
Et question, est-ce qu'on parle de résolution d'écran dans l'antique,
tu vois? Oui, ouais. Alors en fait, je vais le montrer à l'écran, ça va être plus simple. En fait, ce que vous avez vu avec la vidéo projetée tout à l'heure, c'est l'image qui est enregistrée par cette caméra. La caméra de l'œil gauche, et qui est ensuite vue par l'utilisateur à travers la lentille.
Ok. Ouais,
quelle prestance, quand même.
Vas-y, tu peux le manipuler. C'est un prototype, donc fais attention.
je ne le jetterai pas. Ça coûte les lentilles ont une forme du tout conventionnelle par rapport à un casque de verre, on est d'accord.
Les lentilles, c'est une autre innovation qu'on a apportée. Donc, c'est des lentilles catadioptriques. Les lentilles sont très spéciales. Elles nous permettent d'avoir un masque fin, en fait. Elles réduisent la distance entre ton œil et l'écran. Et ça nous permet d'avoir un casque plus fin, tu vois, que le Quest 2. Donc, un des avantages...
C'est vrai qu'il est hyper fin, là.
Tu vois, il fait deux doigts d'épaisseur. Et un des avantages, c'est qu'on rapproche la caméra de ton œil. Donc, t'as pas trop d'effet parallaxe. D'accord. Et en fait, le travail de ma boîte, d'une partie de mon équipe, c'est de faire cette illusion, de faire en sorte que t'aies une continuité parfaite entre ce qui est réel et virtuel, que les couleurs matchent, que le champ de vue périphérique et le champ de vue virtuel... de ta réalité au centre match, etc. Donc, tu as des algos de computer vision, tu as de l'IA, tu as tout un tas de choses. On fait ça avec Qualcomm parce que, tu vois, le casque est sans fil, donc on a une puce Snapdragon XR2 à l'intérieur.
D'accord.
Il y a 6 caméras, il y a un nombre de calculs délirants, il y a une résolution assez folle.
Ouais.
Il y a du monde, quoi.
Donc,
y a du monde là-dedans.
Mais là, maintenant, je pense qu'on a un peu mieux compris déjà le quoi, c'est-à-dire quel est l'objectif du casque. Maintenant, quelles sont les potentielles applications? Une fois que tu as réussi à diviser le coût de la réalité augmentée par deux avec un field of view vachement plus grand et un produit de dingue, là tu nous l'as bien vendu, il faudra qu'on essaye quand même pour vérifier, mais moi j'y crois.
Prochaine vidéo de review, unboxing, ok.
Quelles sont les applications? Qu'est-ce que ça va permettre de faire très concrètement?
Très concrètement.
J'ai une question juste avant. Ah. Est-ce qu'il y a un monde où tout le monde se balade avec un truc comme ça sur la tête? Alors, est-ce qu'à terme, ça sera un truc comme ça, ou des lunettes peut-être, parce qu'on aura réussi à tout miniaturiser et à faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple? Mais est-ce que toi, dans tes objectifs, dans tes ambitions, il y a un monde où tu portes ça presque au quotidien, tu vois?
Dans les 5 prochaines années, non.
Ouais, ok.
Dans 5 à 10 ans, sûrement.
Ok.
Qu'est-ce qui se passe dans les 5 prochaines années? C'est bien, on
sait.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on est une société très petite.
Ouais.
Tu vois, on est 14 là. Mais on voit à peu près tout ce qui se passe parce que les gros viennent nous voir.
T'as eu des petites propales. À l'époque, déjà, t'avais déjà eu des petites propales de l'achat.
Il y a eu des. Quand tu m'as vu au CES, il y a Nintendo, Apple qui sont passés sur le stand, etc. Ouais. C'était pas pour rien, c'était pas pour prendre un coca. Tu vois, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment l'écosystème bouge. C'est pas moi, c'est pas Lynx qui va influencer l'usage c'est plutôt des gens comme Facebook qui mettent vraiment beaucoup d'argent, tu vois, qui font de l'éducation des utilisateurs en disant bah, la VR c'est ça, regardez vous pouvez jouer, c'est social, etc. C'est plutôt ces acteurs-là qui vont faire le marché. Et nous, de ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, en termes d'acceptation sociale, déjà, un casque comme ça, je te cache les yeux. Socialement, c'est mort. Ouais. Que, tu vois, même, même dans des cultures où les femmes sont très voilées, ce qui reste, c'est toujours les yeux.
Toujours les yeux, oui.
Voilà. Les casques comme ça, c'est transparent, donc tu vois les yeux de la personne, théoriquement, mais c'est encore trop gros. C'est-à-dire que là, on est autour de 500 grammes, et en fait, ce que tu cherches, toi, ce que tu aurais envie de porter tous les jours, c'est quelque chose qui a la même qualité que ça, voire mieux, on espère, dans un form factor de 80 grammes qui ressemble à tes lunettes.
Okay.
Et donc, ça va demander certains verrous technologiques qui sont aujourd'hui à l'étude, mais c'est plus de la science que de l'ingénierie encore. C'est-à-dire qu'il y a encore du taf à faire. Et donc, on en reparlera dans 4-5 ans.
Okay. Voilà. Et donc, je reviens sur des idées fixes, voilà. Mais sur les usages, là, tu parlais de 5 ans, 10 ans. Sur les usages que toi, tu proposes concrètement, par exemple. Enfin, toi, tu proposes le matériel, mais quels sont les usages que tu observes dans les entreprises intéressées?
Voilà, qu'est-ce que les gens font avec la machine? Alors, donc, comme je t'ai dit, ce n'est pas encore fait pour être porté dans la rue, donc ce n'est pas un device qui est fait pour...
pour les gens, parce que je voyais des gens sur le chat qui disaient « mais c'est trop cher, je n'ai pas envie d'acheter ça ». C'est normal. C'est-à-dire que...
on y travaille.
Non, mais surtout, c'est normal parce qu'en tant que particulier,
tu n'as pas d'usage
à utiliser ça.
Pourquoi est-ce que tu vas t'emmerder à mettre une brique devant les yeux, même si elle est très fine et qu'on a fait plein de
progrès? Pour voir la réalité avec un Pokémon dessus. Enfin, bon.
Exact, grosso modo. Mais alors, l'usage, en fait, il n'est pas dans l'entertainment, il n'est pas dans le gaming aujourd'hui. Ouais. Nous, ce qu'on voit dans nos applications, c'est très professionnel. Le prix du device aussi, c'est aussi réservé aux professionnels.
Bien sûr.
Mais grosso modo, nous, nos clients aujourd'hui, c'est des chirurgiens, des militaires, des gens dans la santé et des industriels. Et ils font grosso modo à peu près tous la même chose, mais dans leur métier respectif. Il y a beaucoup de formation. Donc tu vois, tu apprends finalement. Je diverge un peu, mais c'est toujours dans l'usage. En fait. Un casque comme ça, comme le mien, c'est une nouvelle interface aux machines.
Ouais.
T'es plus avec une souris, un clavier, un écran tactile. Ouais. C'est tes mains qui font l'interface et c'est un device qui est tourné vers toi, que tu portes sur la tête.
Ouais.
Et donc, ça te permet d'interagir en 3D, de faire des gestes, de voir si tes gestes sont corrects. On a une telle précision sur l'hand tracking pour qu'on sache si tu vises dans le bon sens. Donc, il y a des gestes particuliers.
Donc, ça peut être quoi? Un chirurgien, tu lui dis là, tu viens de buter un mec.
La couture que tu as fait sur cette artère, elle est pas bonne. Ouais. Ou par exemple, un compagnon qui est en train de travailler sur le fuselage d'un avion, on va lui dire attends, là, il te manque une vis, regarde bien. Ou le torque, quand tu as vissé, il est peut-être pas correct. Donc en 3D autour de toi, tu vois, tu as toutes ces indications, ces aides. C'est un peu le casque d'Iron Man, tu vois, tu as vraiment les indications autour de toi. À gauche, tu peux imaginer une checklist virtuelle, à droite, la documentation. Il n'y a pas de limite.
Ouais.
Et donc après, il y a un vrai travail du UX, tu vois, de amener la bonne information au bon moment. Parce que, tu vois, Iron Man, il y a partout, mais dans la vraie vie, c'est le pire. Et donc, il y a un vrai travail du UX qui est assez pionnier, qui commence à voir le jour dans des agences, dans des gens qui font du contenu AR, VR. Mais c'est surtout pour des usages professionnels.
Il y a Inturan qui nous dit que ça peut être cool pour les pilotes, par exemple.
Bah, les pilotes, c'est les premiers utilisateurs de la réalité augmentée. Les head-up display, en fait, les casques de combat que vous voyez dans le Rafale ou des avions dans les films ou dans la vraie vie, c'est du matériel militaire qui a 40 ans.
Ouais.
Voilà.
Donc c'était les pionniers, championnés, comme c'est souvent le cas d'ailleurs.
Voilà. Et donc là, pour tout vous dire, Microsoft a remporté un appel d'offres en 2019, il y a 2 ans, pour fournir aux fantassins américains. Au fantassin, le gars sur le terrain, la même technologie que le pilote. Donc le gars a un casque d'Iron Man et il voit à 300 mètres si c'est un ennemi ou un allié, il voit la nuit. C'est
fascinant.
Voilà. Donc ça, c'est un projet qui coûte 2 milliards de dollars. Donc autant vous dire que l'armée française n'a pas lancé de projet similaire encore. Tu as un vrai changement de paradigme sur comment on va interagir avec le virtuel.
Ouais.
Et ça va être passionnant. Et donc, ça commence par le militaire, par les usages professionnels et dans 5 ans.
Exactement, par le reste. Ce que j'allais dire, c'est que, en fait, c'est hyper intéressant d'essayer de s'imaginer dans le futur où nous, on a tous des lunettes. Il y a eu des rumeurs d'ailleurs que Apple potentiellement pouvait travailler sur un produit. Tu crois, toi?
Moi, je me rappelle de. je me rappelle de
Hardisk. S'il te plaît, autre question.
Autre question.
Je me rappelle de Hardisk qui annonçait, qui pronostiquait l'annonce des Google Glass. En octobre dernier, en octobre dernier.
Mais après, s'il se trouve
grand visionnaire.
Voilà, et puis on a une petite mouche Stan actuellement, donc bon. Sujet suivant. C'est hyper intéressant, honnêtement, sur la technique. Moi, je me pose une question sur plus toi, personnellement, Stan. Ben, déjà, ton cursus, c'est quand même plutôt éthique, qui est une école plus développement web et tout. Ouais. Là, tous les trucs dont tu m'as parlé, ça m'a l'air d'être bien pointu. Ça m'a...
Ouais, c'est.
Et d'être hors scope. Ouais. Ça m'a l'air hors scope, comme on dit, de ton cursus. Donc, à quel moment, déjà, tu as développé des compétences pour être pionnier quand même dans des sujets très compliqués? J'imagine que tu as pu t'entourer aussi, mais quand même, tu as dû, toi, un moment, mettre les mains dans le cambouis et aller au-delà de tes cours, de ce qui t'était proposé, quoi.
Oui, c'est deux choses, c'est la passion, oui, et c'est les gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé.
Dès quand tu étais en école, tu as déjà commencé à investiguer d'autres sujets et tout.
En fait, je peux vous raconter l'histoire. Ouais. Quand j'étais en école, et à peu près au même moment on s'est rencontrés, j'avais ce prototype qui était clunky, etc., que tu as vu, mais qui était ce qu'il était. Ouais. Et,
que tu as fait où?
Que j'ai fait dans ma cuisine. tu vois,
littéralement, tu as fait ça chez toi en mode tu tapais des barres, tu te dis tiens, je vais faire un casse de réalité. Activité du dimanche.
Ouais,
quoi.
Je pourrais vous sortir des photos. Ouais, j'ai fait ça dans ma cuisine.
Un être humain parfaitement normal.
Ouais, ok, je m'ennuyais beaucoup.
Non, mais surtout, non, c'est même pas que tu t'ennuies. Moi, quand je m'ennuie, je regarde une série. Tu vois ce que je
veux dire? C'était l'époque du DK2, donc tu avais Oculus. Qui avait sorti son Development Kit 2.
Ah, je me souviens.
Et donc j'avais eu accès à un DK2, et donc j'avais commencé à coller des caméras devant, et puis essayer de faire de la réalité augmentée par la technique que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis bah, ça marchait, et donc j'ai fait de plus en plus de protos, et voilà, j'avais un petit truc. Ouais. Et je suis allé à Strasbourg à une conférence d'optique, donc absolument hors scope de mes compétences, j'avais jamais fait d'optique de ma vie. Ouais. Et je suis venu défendre à une compétition AR/VR/MR.
Mon
proof of concept. Ouais. Et donc c'était juste après.
Et on repasse nos têtes de bébé.
Voilà, ouais. Bah voilà, c'était à cette époque. Et donc c'est une conférence du SPIE. Et ouais. SPIE, c'est une Society for Photonics Engineers. Enfin, c'est un gros consortium d'ingénieurs. Mm. Et le mec qui dirigeait ça, et qui dirige ça aujourd'hui, c'est un Français qui s'appelle Bernard Kress, que j'ai croisé à Strasbourg. Et ce monsieur, c'est un des architectes optiques de HoloLens Microsoft. Et avant, il travaillait sur Google Glass. Donc okay. Autant te dire que le mec, il est là-haut.
Mais c'est pas
c'est pionnier,
du coup que tu as continué l'aventure après, qui est rentré dans ta boîte et tout?
Non, c'est pas lui. Mais lui, je l'ai croisé quand je savais pas si je voulais monter une boîte, j'avais fait ça, c'était mignon, etc. Mais j'avais aucune idée même de à quoi ça pouvait servir. Et ce gars-là, il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit, en fait, gamin, ce que t'as fait, c'est énorme. Il aurait pu me dire n'importe quoi. Il aurait pu me dire, tu sais, nous, on est Microsoft, allez, rentre chez toi, ta mère t'a fait des gaufres. Enfin, tu vois, il aurait pu me dire, voilà, continue tes études. Il m'a dit, non, ce que t'as fait, tu devrais monter une boîte, tu devrais faire ça, etc. Alors qu'il avait une casquette Microsoft, tu vois. Il m'a aidé, il m'a formé sur certaines choses, sur, tu vois, l'optique, l'anthropométrie. La mécanique,
l'anthropométrie.
Je suis en train de hocher la tête, mais
l'anthropométrie. Ouais, moi, on l'a dit avant l'émission.
L'anthropométrie, c'est juste l'étude du corps humain. Et tu vois, comment est-ce que, tu vois, quand on a designé Lynx, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Tu vois, le centre de gravité de Lynx, tu vois, si je le fais flotter sur mes doigts, c'est un device qui est très équilibré pour que, tu vois, le centre de gravité de ta tête, il est à peu près là, pour que ce soit aligné, que ce soit pas trop lourd, qu'il n'y ait pas trop de tension sur le cou, etc. Donc, c'est cette étude-là, c'est quoi une tête humaine? C'est quoi un œil? Et comment je fais en sorte que ce soit confortable?
Tu fais un casque, ouais.
C'est ça l'anthropométrie.
Okay.
Mais grosso modo, voilà, j'ai été un peu porté par ce gars-là. J'ai été aussi porté par un autre gars après qui s'appelle Mike Brown, qui est American Mike Brown, tu vois.
Un vrai blaze américain pour le coup.
Et lui, il a continué à me former. Et j'avais déjà commencé ma boîte. Et lui, il travaille sur des casques de réalité augmentée pour les militaires américains. Ouais. Il a fait le casque du F-35, qui est le dernier avion de combat américain. Il a fait pas mal de choses dans sa vie et on a fait un casque ensemble.
Ça me disait quelque chose.
Et donc je suis allé en Californie pour travailler avec lui plusieurs semaines et on a fait un casque ensemble qu'on est allé montrer à l'US Air Force, etc. Et donc je suis super ami avec lui et c'est tous ces gens-là en fait que j'ai rencontrés qui ont parier un peu sûrement en disant t'es un bon élève, tu vois. Ouais. C'est un peu ça, c'est mentor, le padawan et le maître Jedi. Et
donc c'était vraiment petit à petit que toi, t'as pu développer des compétences, suivre des cours.
Donc c'est une forme de développement de compétences.
Ouais. Et tu le rencontres comment ce gars? Juste tu le croises, enfin.
Bah,
la connexion, elle se fait comment?
C'était au même endroit, mais encore une conférence du SPIE. Okay. Donc, je vous conseille de taper SPIE spie.org pour voir à peu près de quoi on parle. Et ils font tous les ans à San Francisco une conférence sur l'AR, la VR, mais pas le software, vraiment le hardware, ce que tu vas avoir dans 2-3 ans, etc. Mm-hmm. Où tu as tout le monde, tu as Sony, tu as Magic Leap, tu as Microsoft, etc. Et on m'avait invité à montrer sur scène mon proto, et donc c'est là que j'avais vu Mac Brown. Mais effectivement, c'est pas des rencontres que tu fais en allant chercher ton pain, je suis d'accord.
Et puis
ça se provoque, ça se provoque, ces rencontres.
Ça se provoque, ces rencontres, et puis c'est pas juste des rencontres. J'imagine tu vas pas acquérir un bagage technique suffisant juste en rencontrant des gens. C'est derrière toi, t'as poncé des sujets, t'as passé des nuits à tryhard.
Un autre message, je parle à des jeunes de entre 14 et 18 ans à la Villette, et ils me posent assez rapidement cette question, genre, oh là là, mais c'est complètement hors de mon intellect,
hors de portée, ouais.
c'est très hors de portée, ouais. Comment t'as réussi, ce que je leur dis et ce que je vous dis ce soir,
un QI incroyable,
c'est que si moi j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver, il n'y a pas de secret, j'ai juste travaillé comme un connard, c'est tout,
parce que tu t'amusais aussi,
parce que c'est ce que moi je vous conseille de vous renseigner sur l'AR et la VR. C'est super rigolo.
Ouais, parce qu'on.
C'est super rigolo.
C'est toujours plus simple de suer quand c'est dans des trucs qui.
Voilà, et nous, au bureau, on est dans les premiers à jouer avec notre travail, à utiliser ce qu'on fait. Et donc, t'as une certaine. Tu vois, c'est assez agréable de travailler sur un truc et de voir tout de suite le résultat. Et de pouvoir tester et l'utiliser.
L'expérimenter, de l'avoir dans les mains, etc. Ce qui est quand même dingue, c'est que toutes ces histoires-là, ça t'a amené jusqu'à l'Élysée.
Tout à fait.
Ça, c'est une anecdote complètement ouf. C'est que, alors tu vas nous expliquer, mais moi j'ai vu passer brièvement sur mon feed Twitter, petit selfie tranquillou à l'Elysée, qu'est-ce que t'allais faire là-bas?
Ah, j'étais fier comme un bar tabac là, ouais, non mais c'est. C'était pour le challenge McFly et Carlito. J'ai connu. c'était le 20 janvier où en fait, donc le casque qu'on développe, c'est un projet assez ambitieux, mine de rien. Ouais. Il y a des enjeux stratégiques.
Il n'y en a pas 150 non plus. Quoi,
en fait, on n'a pas de solution européenne AR-VR. Ouais. Il n'y a pas de casque de VR ou d'AR comme ce qu'on fait. Tout le monde ne travaille pas avec Qualcomm, et donc ce qu'on fait, ça attire un peu l'attention. Et j'ai pu aller expliquer à l'équipe de Macron, à ses conseillers. et donc, je suis arrivé à l'Elysée, si tu veux, c'était très rigolo parce que je n'ai pas vu Emmanuel Macron en tant que tel parce que c'était entre un conseil de défense et un conseil des ministres.
D'accord.
Oui.
Donc, il y avait
un poil occupé.
Mais il aurait pu faire un effort pour voir
ouais,
Stan.
Grave, franchement, c'est vrai, le conseil des ministres, il le fait tout le temps.
Alors que Stan,
ouais.
J'étais là, quoi. Non, mais c'était pas le but. Le but, là, c'était surtout d'exprimer à ses conseillers, notamment entreprises, et stratégie industrielle, que les sujets d'AR-VR... tu sais, en France, on a toujours eu ce syndrome de MeToo, de « Ah, nous aussi, on veut un smartphone, nous aussi, on veut un moteur de recherche, etc. etc. » Et puis, on s'y est pris entre 2 et 10 ans trop tard, généralement. Et là, ce que je leur ai expliqué, c'est que, écoutez, les gars, on n'a pas...
Quelques boîtes. Enfin,
l'AR-VR, c'est le futur. Si on veut une solution européenne de réalité augmentée, réalité virtuelle, il faut s'y mettre maintenant. Pour que dans 2, 3, 5 ans, t'es ces fameuses lunettes de 80 grammes et une solution
européenne
digne de ce nom. Et donc, ce qui était super, c'est que ils ont compris, le message a été reçu, on est bien identifié et bien aidé, donc c'est une chance.
Génial.
C'est cool, ça a pas servi à rien, c'était pas juste du politique, etc. Il y a vraiment des gens en face.
T'as vu des applications, il y a eu des virements.
Non, ça se passe pas comme ça, c'est pas du trafic d'influence.
Non, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais tout simplement que tu peux avoir des aides, des allègements, des trucs comme ça, parce que t'es un moteur de l'innovation française, non?
Voilà, donc quand t'es. Quand il y a vraiment une identification.
C'était pas
de...
péjoratif, hein, vraiment, au contraire.
Non, mais ça, il faut le dire, c'est important. Enfin, on critique souvent la France sur ses budgets, etc. Mais ça marche vraiment quand tu es dans le bon circuit. Ouais. Et c'est très, la barre est haute, tu vois. Il faut technologiquement prouver que ce que tu fais, c'est pas un tire-bouchon connecté. Et Dieu sait qu'il y en a.
Dieu sait qu'il y en a, voilà.
Oui.
Il suffit de se balader CVS dans les rayons de...
Voilà, de la French Tech.
De la French Tech, c'est pas moi qui l'ai dit.
Non, mais,
c'est pas gentil, ça, les gars.
Quand on dit projet hardware, je vous le raconte ce soir-là, on est entre nous, mais je suis arrivé devant un investisseur... potentiel pour un tour de financement. Je pose le masque sur la table, il sait pas de quoi on va parler, et je lui dis, on va parler d'un, voilà, bonjour, merci, on va parler d'un sujet hardware. Et le gars, c'est un gros fonds de la place parisienne, il gère plusieurs centaines de millions d'euros, et il me regarde et il me dit, ah mais oui, nous on investit dans ce jeu de hardware, on a investi dans un tire-bouchon connecté et un robot pizza. Donc là, je commence à transpirer un peu, tu vois, tout de suite, tu paniques. Et c'est un peu.
Ces gens prennent des décisions, hein. Ils sont au board, hein, souvent.
Là, mais ils sont partenaires. Non, mais enfin, bref.
C'est étonné de l'argent qu'ont les gens. Et parfois, ils le mettent dans des trucs qu'ils connaissent vraiment.
Mais
c'est beaucoup.
C'est aussi quelque chose qu'il faut respecter. C'est l'argent privé, c'est leur argent.
Ouais, ils font ce qu'ils veulent.
Il n'y a pas de jugement à porter, mais dans certaines conversations, moi, j'ai un peu peur, tu vois, de l'aversion au risque des investisseurs français, enfin, ouais. Même de la manière dont on réagit face à des sujets hardware. Et nous, tu vois, ce qui est assez cool dans notre projet, c'est qu'on a réussi à attirer un acteur américain comme Qualcomm, ouais. Qui nous a.
C'est pas n'importe qui, Qualcomm. Est-ce que pour les gens qui connaissent pas trop le hardware, c'est quand même.
Qualcomm, dès que tu achètes un téléphone qui n'est pas un iPhone, ta puce dedans, c'est une puce qui est designée par Qualcomm. Et même quand tu achètes un iPhone, le modem, donc ce qui gère le réseau, c'est Qualcomm. Ils sont partout. Ils fabriquent.
C'est des monstres.
Ils fabriquent 300 puces par seconde.
D'accord.
Voilà, donc là, le temps qu'on parle, là, on a rempli la pièce de puces. Et donc voilà, ils font les puces Snapdragon.
C'est le Intel du processeur pour mobile ou pour appareil mobile.
Exactement. Et donc eux, ils ont identifié le marché d'après. Tu vois, ils ont gagné le marché des smartphones. Ils se sont dit, bon, c'est quoi le marché d'après? Bon, c'est les casques. Allez, on fait une puce pour les casques. Ouais. Donc je suis allé à San Diego les voir. Je suis entré par la porte, tu vois, et j'ai dit, bah voilà, je vais faire ce projet. C'est un casque, c'est etc. Dingue. Vous allez voir, il y a une nouvelle lentille et tout, c'est cool. Et ils m'ont donné accès au. Enfin, ils m'ont donné. J'ai payé l'accès à leur dernier chipset.
Okay.
Et il n'y a qu'une seule boîte en Europe qui fait ça, c'est nous. Et donc on a accès à la 5G, on fait des tests 5G avec eux super poussés, on voit de la belle techno. Ouais. Et en France, on a du mal à trouver les interlocuteurs en face qui vont comprendre l'enjeu. Ouais. Donc on a des gens qui comprennent, genre les télécoms, tu vois, Orange, etc. Ils comprennent ce qu'on fait, ce qu'on veut apporter. Mais des fonds classiques, c'est plus compliqué. J'ai eu un peu de mal.
Quand tu parles, c'est marrant, tu parles de 5G. Alors moi, j'avoue, c'est pas du tout des sujets que je maîtrise, mais moi, j'ai l'impression de voir aussi dans mon entourage et tout, intuitivement, t'as ce truc de oh, on est bien déjà avec la 4G, qu'est-ce qui vient nous saouler rajouter des antennes. Donc moi, ça m'intéresse, tu vois.
J'ai une anecdote là-dessus.
C'est quoi les applications, si tu pourrais nous la raconter, mais toi, concrètement, ça change quelque chose? Genre, si toi, tu es à la table et tu dois voter, est-ce qu'on fait la 5G? Toi, ça te change un peu ta vie ou pas, c'est un bonus, quoi?
Alors, oui, je vais essayer d'expliquer pourquoi, très succinctement, ouais. Pourquoi de mon point de vue et des discussions qu'on a avec Qualcomm, pourquoi la 5G, ça va changer le monde, d'une certaine manière. Ouais. Il y a plein de manières, je vais l'expliquer sous mon angle.
Bien sûr.
Mais effectivement, quand on dit la 5G, tout de suite, les gens pensent vaccin, Bill Gates, nanoparticules, hotspot, enfin, tu vois, tu te fais vacciner, tu deviens hotspot Wi-Fi, enfin, faut pas perdre de vue l'essentiel. Pourquoi est-ce que la 5G, moi je la préfère
pratique,
à la 4G
pour le réseau, hein. Si tout le monde devient de hotspot, t'es sûr de bien capter.
Ah oui, c'est sûr. Mais
c'est sûr. Si tu rencontres un complotiste, moi j'ai poussé la question jusqu'au bout, tu vois. Il me dit, ouais, mais le vaccin, ça va te permettre d'être contrôlé par la 5G, tu vas recevoir du réseau directement. Et j'ai dit, mais imagine si c'est vrai. C'est super cool. Tu as YouTube direct. Enfin, tu vois, si tu suis vraiment leur raisonnement en soi, ouais. Ça vaut le coup d'être. Enfin, bref.
Pour avoir des vrais arguments.
Les vrais arguments de la 5G dans mon métier, ouais. Et dans ce qui va tous nous concerner d'ici quelques années. Déjà, la 5G, ça va du temps à être déployé. Ouais. Mais dans les usages des contenus immersifs, donc l'AR, la VR, donc on va appeler ça la XR, ouais. Tu vas pouvoir ne plus avoir de latence entre ton émetteur et ton récepteur. Donc ton récepteur, c'est ton casque. Et au lieu d'avoir 100 ou 200 millisecondes de latence avec la 4G, ouais. Sur certaines fréquences, la 5G, tu as 1 ou 2 millisecondes de latence.
D'accord.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ton casque, tu peux le...
Parce que c'est vrai que nous, on connaît très, très bien les problématiques de débit, c'est-à-dire, oui, j'ai envie de télécharger un gros fichier, ça prend X temps, ou j'ai envie d'envoyer une vidéo à quelqu'un, ça prend X temps, surtout nous, avec du montage vidéo et tout, on a vraiment ces problématiques-là. Mais c'est vrai que ces histoires de latence...
Les anciennes expériences.
Voilà. Toi, t'es passé chez Shadow, c'était important, mais globalement, pour le commun des mortels, c'est pas toujours critique, quoi.
C'est pas critique aujourd'hui.
Alors que là, dans ce cas-là,
ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, le casque, je disais tout à l'heure, les casques du marché, le mien y compris, ouais. Pèse encore 500 grammes. Tu enlèves la moitié de l'électronique et tu as un calculateur distant, ouais. Qui stream dans ton casque.
Chose,
ouais. Voilà. Qui stream dans le casque, ouais. Sans latence, en fait, tu retires des composants du masque pour les mettre dans le cloud, dans ton ordi chez toi, peu importe. Voilà. Mais à distance.
Il a dit cloud.
C'est une chose que tu portes plus sur la tête, donc ton casque est plus léger, donc socialement, il va être plus accepté par l'utilisateur. Ouais. Et surtout, tu vas pouvoir collaborer à distance sans latence. Donc, tu vois, un chirurgien qui est en train d'opérer, qui fait des gestes critiques, la donnée de ces gestes filmée par les caméras va pouvoir être transmise sans latence ou avec une moindre latence à un autre chirurgien qui est à Montréal et qui va lui dire « Attends, oula, ce geste, fais plutôt comme ça, etc. »
Du coup, sur des épisodes de type, effectivement...
Collaboration
chirurgicale, où c'est un peu important quand même, voilà, les problèmes de latence et de mouvement. Là, effectivement, ça a du sens.
Mais aujourd'hui, c'est pour des applications critiques, mais demain, tu ne vas plus accepter la latence. C'est-à-dire que tu as un jeu vidéo qui va laguer, etc., ce sera du l'ancien monde. Et ça passe notamment par la 5G.
Mais est-ce que là, on dit très justement dans le chat que la fibre aussi permet d'avoir des très faibles latences.
Alors, le problème, c'est que la fibre, tu ne vas pas pouvoir l'amener sur ta tête dans la rue.
Ouais.
Et c'est là où est la 5G en fait. La 5G, tu vas avoir plein de
quand même un cas hyper précis. C'est-à-dire que tu dois pas être en Wi-Fi 5 GHz avec une connexion fibrée.
Voilà.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc ça veut dire, bon, c'est à plein d'endroits, mais la plupart des cas d'usage qu'on a cités là, est-ce qu'ils peuvent pas se résoudre avec un Wi-Fi ultra rapide et une fibre?
Ça peut se résoudre, donc... Là, on parle de fréquences qui sont autour de 26 GHz. Pour vous donner une ordre d'idée, le Wi-Fi normal, c'est entre 2,4 et 5 GHz. Ouais. Là, on parle de fréquences beaucoup plus élevées, ce qui réduit la latence en partie. Et pour avoir cette fréquence, donc, tu le dis très justement, tu peux aussi l'avoir par le Wi-Fi.
Ouais.
Donc, effectivement, c'est des cas d'usage qui peuvent être adressés avec le Wi-Fi. Ouais. Donc, tu as du Wi-Fi, ce qu'on appelle le Wi-Fi Geek, c'est Wi-Fi 60 GHz. C'est encore un truc qui n'est pas totalement déployé. Il y a quelques petites offres, ça coûte encore un peu cher. Mais nous, sur le masque, on a deux antennes, dont une qui s'occupe de ça pour faire du streaming en Wi-Fi. Ça marche déjà très bien.
Ouais.
T'as pas besoin d'avoir la 5G, etc. Mais voilà, c'est soit la 5G, soit le Wi-Fi. Mais quand t'es dehors, ça va plutôt être la 5G. Voilà.
Ok, donc ça couvre, on va dire, un champ aujourd'hui qui est totalement inexploitable, quoi, en fait, concrètement.
Voilà.
Un truc qui, moi, m'intéresse, c'est si on... Surtout, on va pouvoir aussi... avoir l'avis de Jean qui a eu l'occasion de passer par une grosse boîte qui est passée dans le Shadow, c'est passé par le Next 40. Oui, bah, pour dire aux gens d'ailleurs, j'ai
Next
pas
40.
J'ai pas précisé, mais Jean était chez Shadow avant. Même quand on n'a pas envie de parler d'eux, ils reviennent dans.
C'est,
on peut pas y couper, quoi. C'est l'amour fou.
C'est des copains.
Voilà, c'est ça.
Reste des copains.
On avait fait un talk chez eux.
C'est vrai ?
Ah ouais, ils sont
ça, justement.
Il y a des synergies qui sont possibles.
Pourquoi, mais
là, quand tu parles de déporter la puissance de ton casque pour l'alléger, on est sur des problématiques connexes.
Voilà.
Pour ne pas dire très similaires.
Non, mais l'anecdote que j'avais qui est intéressante, c'est que tu posais la question de la 5G, à quoi ça sert à tout machin. Et en fait, la réalité, c'est que les gens aujourd'hui qui mettent en place la 5G, c'est-à-dire que les opérateurs qui mettent en place la 5G, eux-mêmes ne le savent pas vraiment.
Ils ont pas
c'est-à-dire que je me souviens qu'avec Shadow, on était un peu le produit super cool à venir montrer en conférence interne ou sur des salons de différents opérateurs, pour la simple et bonne raison que, vu que Shadow, c'était un truc qui demandait une très faible latence et une bonne bande passante, et que la 5G apportait ces deux choses-là, et bah en fait le Shadow en mobilité, du coup c'était hyper,
c'est devenu un use case
en idéal. Fait c'était un super use case, c'était en mode ok, en fait là
on se demande à quoi ça les servir,
c'est ça, c'est en fait
merci,
voilà, c'est exactement ça, c'est en mode ok, le streaming du coup vidéo classique Netflix, YouTube en 4G ça marche très bien, y a pas besoin de 5G. La musique pareil, on sait pas trop les usages. Ah, le jeu vidéo en streaming, ah ouais, en fait c'est vrai que vous avez besoin d'une un temps de latence super faible, la 5G VS la 4G, c'est ça, c'est vraiment là où est le plus gros impact. Et en même temps, une bonne bande passante, parce qu'en fait, quand tu streams un flux d'un jeu, tu consommes beaucoup plus que sur une vidéo classique. Donc, et tu peux pas faire de buffer et tout, donc, enfin bref. Et la 5G était vachement intéressante pour ça, et donc, ouais, les opérateurs nous kiffaient à cette époque-là, en mode, oh, allez, c'est trop bien, venez sur tous nos salons pour montrer.
Venez faire
la parade. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on avait fait un salon, ça devait être le Mobile World Congress à Barcelone. Je crois que c'était avec Qualcomm, j'ai un doute, je sais plus si c'était avec Qualcomm ou avec. avec Siemens, ou enfin bref, des acteurs de la téléphonie, mais je crois que c'était Qualcomm. Et notamment pour justement montrer un use case, quoi. Parce que tout le monde était en mode 5G, c'est trop bien, tout le monde arrive à 5G, mais tout le monde était en mode OK, mais pourquoi faire ?
Comme ça a été aussi dit plusieurs fois dans le chat, il y a un côté peut-être aussi un peu absurde au fait qu'on a 15%, je crois, du territoire français qui n'est pas raccordé à Internet, tout court, tu vois.
Alors, il y a plusieurs fréquences dans la 5G.
Combien de personnes vivent dans ce territoire ?
Non, de la population, je voulais dire, de la population. Et donc, c'est vrai que je comprends honnêtement les questionnements qu'il peut y avoir.
Il y a vraiment un
point de vue écologique, à plein de niveaux, sur le déploiement de la 5G.
L'équipe de, enfin le gouvernement et les opérateurs télécoms, pour répondre à ton anecdote, je le vois aussi, tu vois, des discussions qu'on peut avoir avec certains gros acteurs, ils cherchent effectivement toujours des cas d'usage pour expliquer au public les bienfaits de la 5G. On en est encore là.
Ouais.
Et du coup, c'est ce problème qu'on n'a pas encore trouvé de truc super visuel, avant qu'on arrive, honnêtement. Vraiment, tu vois, pour expliquer les bienfaits de la 5G, il faut une application visuelle qui donne un peu...
C'est un peu fait à l'envers, quand même. C'est-à-dire que
c'est pas fait à l'envers, mais après... on se rend pas compte à quel point on est en avance de phase sur vraiment le vrai déploiement de la 5G. Ouais. On est quand même, je vous l'ai dit, hein, à 2-3 ans de vraiment auquel la 5G fait partie de nos vies, de nos téléphones. Et si bien que ces gens ont du mal à expliquer la 5G, pour moi c'est ce qui laisse la porte ouverte aux complotistes et à tout ce qu'on a vu de super drôle sur la 5G, mais en fait qui me fait pas trop rire non plus, quoi.
Non, c'est clairement.
Ça m'inquiète plus que
tout. Non, mais en vrai c'est hyper intéressant. Je voulais peut-être conclure un petit peu l'arc Stan Lynx par te demander ton avis sur de l'extérieur. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a certains pays où tu vas avoir une communauté autour des entrepreneurs ou même un soutien particulier d'associations ou du gouvernement, etc., sur le développement de start-up et leur vie, voilà, pas seulement la création, parce que ça, on sait très bien le faire en France. C'est quoi ton retour, toi, d'expérience d'un entrepreneur français ? Ça se passe comment ? Est-ce que tu as l'impression qu'on a un cadre pour innover qui est sain ? Quel est ton ressenti par rapport à la French Tech, etc., concrètement ?
Alors très succinctement, alors déjà vous avez une super interview du créateur de VLC qui avait adressé ce sujet qui va être beaucoup plus long que ma réponse.
Monsieur Jean-Baptiste Kempf.
Tout à fait. Et bah Jean-Baptiste avait fait une
super interview.
Qui viendra à coup sûr, qui a envie de venir.
Bah voilà. Il vous en parlera bien mieux que moi. Ouais. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il avait dit dans son interview qui sont toujours vraies aujourd'hui. Mais alors je vais comparer deux choses, la France et les États-Unis. Ouais. Voilà, parce que c'est les deux gros sujets. Les deux gros acteurs autour de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Honnêtement, il faut pas cracher sur la France. Nous, on a été très
soutenus. C'est facile, le French bashing.
Non, mais c'est...
Non, c'est vrai, c'est vrai.
On pourra clasher certaines choses.
Mais
côté financement, il faut dire que pour amorcer sa boîte, la développer, l'emmener jusqu'à une preuve de concept, jusqu'à peut-être une première industrialisation, on va dire qu'il y a du monde.
Ouais.
OK, il y a du monde. Il y a BPI qui est là. Il y a des instruments qui... gouvernement public, privé aussi, qui travaillent ensemble. Tu vois, par exemple, BPI, en fait, BPI, c'est la banque publique d'investissement, donc c'est nos impôts, gérés par la Caisse des dépôts, qui investit de temps en temps dans des sociétés françaises, soit sous forme de prêt au début, et puis après, pourquoi pas sous forme de capital. Et bah, cette entité est aussi actionnaire de fonds privés.
Ouais.
Donc tu vois, tous ces gens-là sont très entremêlés. Il y a un écosystème français de financement qui se développe de plus en plus. Il y a vraiment des gens intelligents qui travaillent là-dessus depuis un moment. Mais à partir d'un certain... il y a un espèce de plafond de verre dans le développement des sociétés où on a du mal à les accompagner jusqu'à en faire des... Même pas des titans, mais des licornes, ouais. Même si le terme est...
galvaudé.
Très galvaudé. mais on a du mal... Je parle pour des projets hardware. Hein, les SaaS et les applis qui vendent des hamburgers, j'en parlerai pas, mais... des projets hardware.
Tu as des SaaS qui servent à quelque chose, quand même.
Il y a des SaaS, il y a des choses qui ont changé l'usage.
SaaS, ça veut dire quoi, SaaS ?
SaaS, c'est software as a service.
Oui, je sais, mais écoute,
tu me testes là ? Tu me testes ?
Non, mais vous avez vu. Non, mais c'était pour les gens qui ne
savaient pas.
Non, c'est un SaaS.
Quel détail ?
C'est. Ça peut être BlaBlaCar, ça peut être Doctolib, c'est des exemples de SaaS, mais grosso modo.
Payfit, Alan, Lydia, tout ça, c'est français.
Ouais, ça, on sait très bien. voilà, c'est des beaux outils financiers. Ouais. Les financiers sont fans de ce modèle
d'abonnement.
Abonnement, récurrence, oulala. Voilà,
oulala. Tu... Du miel.
Ouais, c'est
du
ça.
Du miel pour les oreilles.
Et tout de suite, dès que tu dis hardware, oulala, c'est ça, production.
Usine,
voilà, oulala, ça fait peur. Tout de suite, tu transpires.
C'est beaucoup plus dur de se projeter quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a quand même un truc où. Moi, je comprends un peu ça quand même, tu vois.
Moi, je te le dis, il y a un vrai manque de vision. Y a les gens ont du mal à... Les gens qui sont de l'autre côté de la table, des discussions que j'ai aujourd'hui, parce que je suis actuellement dans une levée de fonds, beaucoup de gens de l'autre côté de la table ont du mal, même pas à comprendre, mais à se projeter sur les usages que je décris et qui... Si tu veux, Qualcomm a parié sur notre boîte en nous donnant leur chipset. C'est quand même ouf comme signal. C'est pas pour rien. Il y a plein de gens autour de nous, tu vois, on a un partenariat avec Nvidia sur Cloud XR pour faire du streaming à distance, etc. On travaille avec des acteurs de dingue et on est probablement la société la plus petite qui travaille avec tout un tas de beau monde. Et même ces signaux-là n'arrivent pas à arriver dans l'oreille. Voilà. C'est ça.
Si c'est français. Défriloser.
Défrayer, non, ouais.
Non, arrêter d'être frileux, quoi. Ouais, au moment y aller, quoi.
Moi, je me heurte de. Je suis pas en train de râler, mais je me heurte à une certaine aversion au risque par rapport à ça. Et je vous avoue ce soir que j'ai beaucoup plus de répondants de la part des investisseurs potentiels américains. Ouais. Et c'est pas les mêmes montants. Et donc là, je suis en train de faire une levée de fonds qui sera probablement pas française, quoi. Et c'est dommage. Je suis passé à l'Élysée le 20 janvier. Ces gens-là m'ont aidé. Mais les gens qui ont checké, au final. Il y a des soucis, quoi.
Après, moi, de mon expérience chez Shadow, parce que comme je suis arrivé, on est au tout début et je suis parti il n'y a pas très très longtemps, donc j'ai connu la phase d'hypercroissance et plusieurs levées de fonds. Et c'est marrant parce que quand on avait fait une levée, on avait annoncé une levée de 51 millions, je crois, ou je sais plus, c'est à peu de choses près, c'était plus de 50 millions.
C'est énorme.
C'est énorme, en France.
C'est monstrueux.
En France, c'est monstrueux. Et on était la plus grosse levée de l'année, je crois, française, à ce moment-là. Et. Dans le même laps de temps ou dans un court laps de temps, juste après, on a ouvert un bureau à Palo Alto en Californie, donc en pleine Silicon Valley, berceau du numérique, berceau de l'internet, tout ce qu'on veut.
Berceau de la moula aussi.
Berceau de la moula aussi, enfin juste la partie la plus riche des États-Unis en fait. Peut-être New York, je sais pas comment ça se balance, mais en tout cas, beaucoup d'argent dans la Silicon Valley. Et en fait, quand t'arrives et tu dis, salut, je suis une boîte qui a fait 51 millions de levées là-bas, t'es en mode. Ah bah prends ton ticket, t'es la 200e de l'année. Enfin genre c'est vraiment, les échelles sont pas les mêmes.
Ah non mais il y a des mecs là-bas.
C'est pas du tout les mêmes.
Ah mais ils savent pas signer un chèque en dessous de 5 millions hein, certains.
Mais ouais, on ne joue plus, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est en France, on a la meilleure voiture qu'on a, c'est une Twingo, eux ils roulent pas en dessous d'une Merco. Enfin c'est vraiment, il y a un gap en termes de niveau financier sur ces points.
Culturellement, ils ont vu des sociétés tu vois, comme Microsoft, Apple, où sur le temps d'une vie humaine, c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFAM. Mm. Et nous, on est encore incapables de faire ça.
Sur une courte vie humaine, en plus.
Il y a des rapports gouvernementaux. Ouais. Hein, le gouvernement sait qu'on a du mal à faire des licornes, on sait où ça bloque. Ouais. Mais ça va prendre du temps à se débloquer.
Ça m'intéresse personnellement de savoir comment toi, tu te situes par rapport à ça, parce que peut-être que tu as des envies qui à un moment... qui est un moment clash, quoi, parce que potentiellement en tant que Français, t'as envie t'as peut-être envie que ta boîte soit française, d'essayer de créer vraiment de la, comme tu disais, un concurrent européen sur le marché de ARVR qui, comme tu le prédis, risque de bien bien boomer dans les prochaines années. Cette envie-là que tu penses que t'as, est-ce que du coup, comment tu la concilies, c'est ça, c'est français,
oui.
avec ce que tu nous disais, que en fait c'est dur à trouver des investisseurs européens ou français qui vont être au niveau d'un investisseur américain. Comment tu concilies les deux? Est-ce qu'à un moment, tu dois aussi faire des choix par rapport au bon développement de ton projet? Comment tu te situes?
Ah, mais c'est une bonne question. Et en fait, la réponse, elle est assez simple. C'est-à-dire que j'ai certaines convictions. Et tu vois, avant qu'on se voit ce soir, je viens de Montparnasse et j'étais à Angers chez un sous-traitant parce qu'on fait travailler... pas mal de gens en France, tu vois, toute mon équipe est française, on n'a pas délocalisé certains trucs en Roumanie, on fait très attention à ça, mais à un moment, il faut être pragmatique, tu vois, si la survie de la boîte et surtout son développement et la mise sur le marché d'un produit, à un moment, tu vois, la moula, elle commence à perdre de l'odeur, et il faut savoir la prendre.
Bien sûr.
Donc là, tu vois, je vais probablement très 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 bientôt aller aux États-Unis pour continuer des discussions.
Oui. Est-ce que tu as un ordre d'idée déjà de à combien tu veux la clause quel serait le montant de ta...
Est-ce que tu as une barrière basse et une barrière haute?
Alors, la barrière basse, c'est 4 millions
okay.
d'euros. Et la barrière haute,
pas mal, pour une deuxième,
on peut dire qu'il n'y en a pas, hein, mais on est plutôt autour de 12.
D'accord.
Donc, tu vois, et quand je parle à des Américains...
Vous êtes 14, donc franchement, ouais. c'est joli.
Non, mais tu vois, quand on parle à des Américains, je suis plutôt, on parle plutôt de 12, et ouais. ils ne comprennent pas si on dit... tu vois, quand on leur dit 4, ils ne nous reçoivent pas.
Ouais.
C'est pas sérieux, un projet ouais. hardware qui demande 4 millions. C'est tu fais des moules au fond de la cuisine, c'est pas sérieux, quoi. Ouais.
Donc, je fais juste un petit rappel pour M. Flair David. On est en train de discuter de Lynx, qui est le produit... C'est le nom de l'entreprise aussi ?
Ouais.
Le produit de notre très cher invité Stan Laroc, qui a monté une boîte il y a quelques années. Je l'avais rencontré déjà à l'époque, j'avais un peu parlé de son produit sur ma chaîne. Mais du coup, tu as développé ce casque qui est on appelle ça la réalité mixte.
Backshot,
c'est
hop.
Ça voilà, c'est ça. réalité mixte. Ouais. Donc voilà, je vous laisse revoir le début de l'émission et éventuellement la vidéo qu'on avait fait pour avoir un petit saut dans le temps aussi et voir qu'est-ce qui évolue en 3 ans.
Je vais poser une question en plus que je t'ai pas posée sur le casque. On est d'accord que sur un casque de VR, t'es isolé de l'extérieur en termes de lumière.
Ouais.
Pas sur le tien.
Alors. Bonne
C'est-à-dire
question.
Que tu vois,
très,
parce que t'es vraiment dans un tunnel, quoi, tu vois.
J'y ai pas pensé.
Là, bah, enfin, en tout cas, est-ce que
sur celui-là, il y a pas la mousse parce okay. qu'on l'utilise. Enfin, mais en fait, quand tu passes en mode VR, tu peux fixer une mousse qui sera aimantée. Qui est un des accessoires du masque. Donc tu peux retrouver cette vision tunnel si tu veux vraiment une immersion en VR.
Okay.
Voilà. Ça coûte 35 euros par mois l'option.
Non,
en AR, c'est pas nécessaire.
Tarif Apple, c'est 85 euros la mousse. non, c'est livré avec le masque et on a fait voilà, peut-être la prochaine fois, on vous montrera le packaging. Il est vraiment top, mais t'as une petite mousse qui vient se fixer pour te remettre un effet tunnel. Okay. Et quand tu passes en AR, tu peux enlever, elle est aimantée.
Mais en AR, ça, c'est pas nécessaire. Parce qu'en VR, on est d'accord que quand tu veux vraiment être en immersion dans ton truc,
voilà.
si tu tournes, enfin sans bouger ta tête, encore une fois, si tu regardes à gauche ou à droite,
ton cerveau, il comprend,
il fait pas la jonction. Tu vas voir la vraie vie, quoi. Enfin,
voilà, c'est ça. Donc, et donc effectivement, en VR, tu vas chercher l'immersion la plus totale, donc une chambre noire, à part l'image qui t'est projetée devant les yeux. En AR, c'est plutôt l'inverse. Tu veux ta vision périphérique pour ta sécurité, pour tout un tas de facteurs humains. Tu veux ton équilibre vestibulaire, donc ça passe par la vision périphérique. Donc ton champ
donc
sur le côté. Là où tu as beaucoup de FPS sur les côtés, tu vois.
FPS illimité, là.
Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'avoir une mousse qui peut s'enlever. Et donc okay. là, je l'ai amené sans la mousse, d'où okay. ta question. Voilà. Je passe à.
Non, c'est très bien. Très, très bien. Très intéressant.
À part pour. Avant d'embrayer sur les sujets d'actualité, et notamment, comme je vous ai vu en parler longuement sur le chat, mais les tristes événements qui sont arrivés au VH, on va en parler juste après. Mais est-ce que, Jean, toi qui. On est en plein, on peut le dire aux gens, on est en plein en ce moment dans les réflexions, parce qu'on, mine de rien, on développe une entreprise, donc ça veut dire que.
Tout à fait ce qu'on fait, ouais.
C'est totalement ce qu'on fait. Donc, ça pose plein de questions nouvelles pour nous, de type, de gestion, en fait. Alors, ça peut paraître. Ennuyeux comme ça, mais en fait, c'est hyper important parce que c'est comment on fait en sorte que la boîte grandisse. Est-ce qu'on embauche des gens? Est-ce qu'on n'embauche pas des gens? Est-ce qu'on lève des fonds? Bah, alors, nous, on est pas
on découvre en fait. Enfin,
voilà, on découvre complètement.
Toi, tu as une expérience qui est un peu plus vieille que la mienne d'un point de vue avoir une boîte.
Oui.
Moi, j'ai une expérience qui était plutôt externe parce que j'ai participé à une grosse boîte, mais j'étais pas dans tous les sujets non plus tout le temps, bien que j'ai eu la chance d'avoir des vues sur pas mal de trucs.
Ouais.
Mais du coup, on découvre. En même temps, contrairement à Shadow dans lequel j'ai été et à la boîte de Stan, c'est que nous, on ne va pas lever de fonds. En théorie, on ne devrait pas le faire. Qui sait, un jour, pour une raison X ou Y, si c'est bien réfléchi et ça vaut vraiment la peine, on le fera peut-être. Mais aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. On s'autofinance et on grandit, en fait. Et donc, tout le sujet, c'est toujours du pilotage, quoi.
C'est ça. Mais du coup, alors, avant qu'on embraye, est-ce que tu as des questions, peut-être, qu'on peut poser à Stan ? Pour en profiter, voilà. On a des... C'est quand même rare qu'on ait des gens de génération.
Investissez tout sur le Dogecoin. Je n'ai aucun autre conseil.
Ou les actions Tesla.
Non.
Mais c'est plus. Il fallait faire avant.
Si t'as des questions, si t'as une question. Ouais.
Non, mais toute bête qu'en vrai qu'on a, c'est. Je prenais un peu l'analogie d'un cheval. C'est-à-dire que tu peux. Bon. Tu vas comprendre où je veux en venir. Mais une boîte, tu peux avoir les rênes très serrées. En mode, t'es un peu en flux tendu sur les finances, etc. Et tu vas vraiment, tu vas prendre peu de marge, c'est-à-dire que concrètement, dès que t'as un peu de sous, tu te mets à embaucher tout de suite. Et ou alors, tu peux avoir les rênes un peu lâches où tu te dis, non, ok, il faut prendre X mois d'avance et tout.
En fait, soit tu la joues, grosso modo, c'est soit tu la joues safe, soit tu la joues risqué, quoi.
Ouais, c'est ça. Toi, c'est quoi ton, ta position par rapport à ça?
Mais après, toi, c'est différent parce que c'est des grosses rentrées d'argent qui te changent.
Je pense que tu as des sujets parallèles quand même.
Le hardware, ça demande beaucoup d'argent, c'est vrai. Ouais, mais c'est ta question, elle s'applique à tout type d'entreprise. Ouais. Et la réponse que j'ai, c'est ça dépend de la vie que tu veux mener, tout simplement.
Ouais.
Donc, les deux scénarios que tu évoques, c'est soit je suis en flux tendu et je compte mes sous mois par mois, etc. Soit je prends un petit tador pour le moment et je fais en sorte d'arriver à mon but en gérant ce paquet d'argent et en évitant plein de problèmes de la vie quotidienne et de la gestion. Quand tu finances une boîte, si tu te mets de l'autre côté de la table et que tu reçois... et que je reçois Micode en tant qu'investisseur.
Tiens, on fait une simulation.
Est-ce que
j'ai envie. J'ai besoin d'argent.
Si t'es un financier un peu vicieux, tu vas pas forcément vouloir donner au mec des filets de sécurité. Genre, par exemple, imaginons, tu dis ah bah j'ai besoin de, je sais pas, 500 000 euros pour me lancer, ouais. Ou 100 000
tu
ou 200 000.
Tu vas pas filer 2 millions au cas où quoi.
Et bah, je veux dire, le mec il va dire est-ce que si je te file 80 000 sur 100 000, tu vois, ouais. Est-ce que si je file 80 000,
tu peux pas y arriver quand même.
Parce que si il va te donner trop, il va se dire « Ah, il va rien foutre. » Mais vraiment. Et il va vouloir garder tu vois, le collier, ouais. les rênes sur toi pour que tu sois en flux tendu non-stop et que tu délivres à mort pour que lui investisse le minimum et en tire le même résultat.
Ouais.
C'est malin, c'est smart.
C'est sûr.
Donc, il faut avoir
ses
ça
intérêts,
en tête.
Il défend ses intérêts. Mais donc, si moi, je viens te voir, par exemple, on ne cherche pas des investisseurs, ouais. Mais si jamais moi, je viens te voir... Qu'est-ce que, en tant qu'investisseur, tu penses que qu'est-ce qui est plus entre guillemets valorisé? C'est quelqu'un qui va être hyper safe, qui va faire en sorte que jamais sa boîte elle soit à court d'argent, etc. Peut-être qu'il va avoir une croissance lente et tout.
C'est
ou alors un mec.
Je pense que c'est l'entre-deux.
C'est un entre-deux, mais la règle ultime, c'est il faut jamais que tu sois dos au mur. Dos au mur, c'est t'arrives au bout de ton tas d'or, que ce soit celui que t'as compté tous les mois ou celui que t'as au début,
ouais.
Et t'arrives et tu te réveilles au premier du mois et tu dis putain, j'ai pas de quoi payer les gens à la fin du mois. Je vais faire une levée de fonds. Sauf que tout le monde autour de toi, y compris tes actionnaires actuels, ils vont se dire, putain, il a plus une thune, il a zéro marge pour négocier parce qu'à la fin du mois, il lui faut sa thune.
C'est,
et c'est là où tu te fais...
ça, t'es en position de faiblesse.
Là, tu te fais dilater. Là, c'est,
des boîtes qui ont plus d'argent, t'en connais en ce moment?
Ouh, la transition.
Quel salaud.
Non.
Non, parce qu'on on passe aux actus, donc dans les actus.
Dans les actus, il y a... Oh, vas-y, on est des gens connus.
Vas-y.
Non, mais non. Non, oui, non, Shadow a des... Après, encore une fois, a des soucis d'argent.
C'est intéressant, franchement.
Mais
c'est
en fait,
c'est un
moi,
cas...
pour avoir parlé avec des gens en interne, alors, évidemment, il y a toutes les visions et tout machin, mais en fait, t'as des grosses boîtes qui ont frôlé la banqueroute,
ouais.
Qui ont été reprises et qui, en fait, leur ont permis d'aller là où elles sont aujourd'hui.
Du coup, alors, pour...
En fait, c'est pas...
Avant
c'est
que
pas
tu,
moi,
avant
vraiment...
Qu'est-ce qui arrive,
oh, il parle d'Apple, là.
Qu'est-ce qui arrive à Shadow, en fait? C'est quoi?
Non, Shadow, aujourd'hui, ils sont en...
Ça s'appelle comment?
Le terme exact...
Non.
En redressement judiciaire.
Ils sont en redressement.
Ils sont en redressement judiciaire. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ils arrivent à un moment où ils ont des charges, ils n'ont plus d'argent, et donc en fait, le tribunal de commerce s'en mêle. On va faire très très simple.
Ouais.
Et je ne connais pas plus que ça le sujet, donc ouais. En fait, je vais essayer de ne pas raconter trop de conneries, mais le tribunal de commerce s'en mêle et fait en sorte de
trouver
réussir
un
à trouver un repreneur, quelqu'un qui va mettre les sous
ouais.
pour faire en sorte de préserver de l'emploi. Enfin. Voilà, pour pas juste que la boîte dise bah, j'ai plus d'argent, ciao, et tout le monde est
ça
dehors, et tous les gens à qui Shadow doit de l'argent seront jamais payés. Quoi.
Ouais.
Donc l'objectif étant de réussir à faire perdurer, évoluer le service, enfin voilà, de faire en sorte que le truc ne crève pas. Et
faire en sorte que les gens aussi qui sont en attente, parce qu'il y a plein de gens chez Shadow, je sais pas si t'as suivi un petit peu les historiques, mais t'as plein de gens qui sont en attente en fait de leur machine et tout. Du coup, ça permet, j'imagine aussi.
Mais ça, à la limite, c'est un moindre mal, tu vois, parce que les gens qui sont en attente de leur machine, aujourd'hui, au pire des cas, tu les rembourses, tu vois.
Mm.
Et c'est des. À l'échelle de Shadow, c'est des petits montants,
c'est
dans le sens
moins...
où c'est 30 euros, 15 euros, 20 euros à plein de personnes, mais c'est de l'argent, encore une fois.
C'est moins grave que 150 employés.
C'est pas les factures d'électricité, c'est pas les factures de hardware, c'est pas les factures des data centers qui sont, eux, d'un autre niveau en termes de montants, quoi. Donc, c'est sûr. Mais encore une fois.
Redressement judiciaire.
Moi, redressement judiciaire. C'est vrai que moi, le terme redressement judiciaire, j'étais en mode ah oui, ok, c'est mort.
Ouais.
Genre en mode redressement judiciaire, c'est t'as des huissiers qui viennent chez toi, qui prennent tes affaires, qui te demandent pas ton prénom et ciao, bye. En vrai, c'est sur une boîte qui a cette valeur-là, ce nombre d'employés, etc., qui a fait déjà ce qu'elle a fait.
Oui, tout le monde cherche une solution.
Voilà, c'est ouais. Les gens. En fait, la bonne solution, c'est de trouver une solution. C'est de trouver un mec qui va réussir à reprendre.
Le cas où c'est la fin de l'aventure. est très très peu probable, quoi, en fait.
Ah, c'est un scénario, hein, franchement, ça peut arriver, tu vois. Si personne veut mettre, tout le monde dit non, moi je mets pas mes mains là-dedans, bah au bout d'un moment, y a plus d'argent, y a pas de quoi payer.
Si on trouve pas de repreneur, en gros.
Voilà, mais en fait, sur une boîte où il y a autant d'enjeux, d'argent qui est déjà passé, etc., qui a en fait aussi beaucoup d'argent, parce qu'en fait, aujourd'hui, Shadow a loue des machines, mais ou les possède, ça dépend desquelles, mais. Il y a aussi une valeur
dans le matériel, voilà, etc. Oui,
bien valeur sûr. Qui existe.
Et même dans la techno.
Dans la techno, dans la valeur de la techno, parce qu'aujourd'hui, Shadow, qu'on le veuille ou non, a des soucis d'argent.
Sur
mais
ce créneau, c'est la meilleure techno du
c'est
monde.
C'est aujourd'hui la meilleure techno du marché, quoi. Ouais. Donc il y a des gens qui veulent en faire quelque chose. Il y a des rumeurs qui ont été notamment publiées dans Next Impact. L'équipe de journalistes de Next Impact, extrêmement fort sur ces informations, en tout cas. Il y a beaucoup de sujets qui parlent d'OVH.
Ouais.
Attention, c'est pas OVH.
C'est Octave Klabat, pardon.
Ah oui,
c'est Octave Klabat via son fonds qui s'appelle, Austin, peut-être tu le connais, le nom
non,
du fonds.
C'est
GSP ou un truc comme ouais. ça.
Mais c'est Octave Klabat,
c'est pas OVH en direct. Non, c'est pas OVH. Mais évidemment, Octave Klabat, c'est OVH. Enfin bref, c'est connecté.
C'est le même pantalon.
GSB, le nom du fonds. qui serait le client principal. Mais il y a le tribunal de commerce a laissé jusqu'au 18 mars, si je dis pas de bêtises, pour le dépôt de dossier. Pour que chaque personne qui veut faire une reprise dise bah moi je reprends pour tant enfin je mets tant de millions pour assurer tel service avec tel projet tel plan derrière quoi.
Moi je trouve ça honnêtement passionnant comme sujet parce que c'est rare comme événement honnêtement quand même c'est-à-dire que
ouais.
j'en ai dans des boîtes que je connais un peu qui sont proches et tout c'est j'en avais encore jamais vu tu vois des situations telles que ça donc c'est hyper intéressant de voir comment ça peut se passer. On espère quand même, honnêtement, parce que c'est un beau produit français qui pourrait concurrencer, si on arrivait à le ressusciter un peu, pourrait concurrencer.
Il n'y avait pas
Quant
aussi qui avait des soucis de moula dernièrement
aussi, ouais. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, Stan, tu vois, c'est qu'en France, on est très bon sur la phase de 1 à 50 employés, quoi, ou de 1 à 100 employés, et puis que quand tu dois vraiment aller faire de l'hyperscaling où là tu commences à aller partout et tu passes de 200 à 3000 personnes, c'est vachement plus chaud de trouver les fonds exclusivement en France. Et ouais. il faut aller les chercher aux États-Unis, etc. Et les trouver aussi, tu vois. Le Shadow, aller les chercher aux États-Unis aujourd'hui, ils les ont pas trouvés parce que voilà, il y avait des soucis de XY, je connais même pas toutes les raisons, mais.
Justement, il y a Fiat Minimis qui dit que potentiellement que c'est aussi compliqué d'avoir un business plan rentable quand t'as le prix des cartes graphiques qui est jusque.
Et ouais, il y a juste un tout petit truc qui s'appelle une pénurie plus une pandémie en fait aussi qui est arrivée qui fait bien chier.
Ah oui, c'est vrai.
ça.
Ah oui.
Oui, ça.
Voilà, il y a plein de choses qui fait qu'aujourd'hui Shadow c'est compliqué à mettre en place, à trouver le bon business model, la bonne rentabilité, faire en sorte de réussir à acheter le hardware au bon prix.
Il y a une vraie crise mondiale des puces, hein. Nous on en est victime aussi chez Lynx, ouais, à notre petite échelle, mais je peux vous dire qu'il y a du lead time, du temps d'attente sur certains composants, certains capteurs, ça me rend assez dingue
tout le monde, quoi. Ouais, c'est fou. Bon, en tout cas on espère
avant, c'est dû à quoi cette pénurie, est-ce qu'on sait, parce que moi je vois des cartes graphiques d'il y a 3 ans qui font x4 en termes de valo, je sais que c'est ultra galère à trouver et apparemment c'est pas que dans les cartes graphiques.
Parce qu'il y a une demande qui a explosé fabriquer une usine de semi-conducteurs, c'est pas évident. Et donc c'est l'entreprise TSMC, hein, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui fait ça. C'est compliqué pour eux de gérer la demande mondiale.
Okay. Donc, c'est les seuls à faire ça.
Alors c'est les seuls à faire des chipsets en dessous de 7 nanomètres. Donc, tu as Samsung Foundries qui fait du 7 nanomètres. Mais typiquement, les puces en 5 nanomètres. Donc, je crois qu'il y en a sur les Nvidia et sur l'iPhone 12 déjà. C'est ce qui est en prod actuellement. C'est les seuls au monde. Et je crois même que les 7 nanomètres de Samsung, je m'avance peut-être un peu, peut-être qu'ils sont à 10 nanomètres. Mais en gros, TSMC, je vous conseille de googler aussi TSMC. C'est l'entreprise géopolitique la plus importante du monde en ce moment. C'est peut-être potentiellement le début de la troisième guerre mondiale entre les États-Unis et la Chine. Voilà. Donc je vous laisse faire vos recherches. Je pense que Mikot a un bon sujet de vidéo.
Peut-être.
Ça c'est gentil, quoi.
C'est cadeau.
Ouais. Bon, j'ai eu la chance de visiter une usine. C'est eux qui font les puces de tout le monde, sauf Intel. Et encore, ça va peut-être changer, mais tu vois, ils font les puces de Qualcomm, de Nvidia, de vraiment tout le monde. Toutes les puces ARM qui sont à une certaine lithographie, donc très fines pour les smartphones, etc. C'est fait chez eux. C'est l'entreprise qui emploie le plus de monde à Taïwan. Et si bien qu'il y a des tensions, parce que tu vois, les Américains ne veulent pas que Huawei achète leurs puces pour que les téléphones chinois en bénéficient, etc. Donc tu vois, tu as une guerre commerciale.
Je vais peut-être t'interviewer ou te...
Voilà, on en reparlera, mais y a un vrai sujet et je pense que c'est intéressant que les gens soient au courant parce que c'est des grosses puissances derrière tout ça.
C'est des trucs qui se passent vraiment en coulisses en plus. Donc,
ouais.
Carrément.
Avec plaisir.
On espère du coup quand même pour Shadow qu'ils vont se relever et que voilà, qu'ils vont renaître de leurs cendres, tel le phénix.
Ce qui est génial, c'est que ce jeu de mots, renaître de ses cendres, tel le phénix, je sais très bien de quoi tu veux parler après. Et pourquoi t'as fait une connexion
sur Shadow ? Oh
putain,
je sais pas, je te jure.
T'as compris ou pas ?
Je te jure, j'ai compris. Incroyable.
Le gars, on parle d'un incendie dans un data center juste là.
Je vous jure, c'est pas fait exprès, vraiment.
J'ai trop
un karma, mec. Bon, prochaine annonce du coup.
Ouais, il est chaud du coup le prochain sujet, c'est ça.
Prochaine il est chaud, ouais, c'est comme t'as dit tout à l'heure, le sujet est chaud. T'as fait un certain nombre de bourdes sur ce sujet-là qui est assez incroyable quand même.
Bon, il y a eu un incendie. Voilà, on va dire les choses. Il y a eu un incendie, malheureusement, pas petit. Voilà, un énorme incendie dans le data center d'OVH.
Strasbourg.
De Strasbourg. Je crois qu'il est réparti en 4 clusters. Il y a le 2 qui est complètement annihilé. Voilà. Le 3 qui était un peu touché et
le 1 il va pas bien aussi, je crois, non ?
Et je crois que il y a des.
Ah ouais, c'est impressionnant.
Ouais, c'est.
Oui, c'est pas. Oui, c'est. Ouais.
Alors, ouais, j'ai vu des vannes d'humour noir sur le cloud, mais je me permettrai pas de les citer.
Ah oui.
Il y a des serveurs qui sont morts, ok, un peu de respect.
Voilà. Non, mais honnêtement, c'est quand même pas du tout une bonne nouvelle. Hein. On fait des blagues, mais c'est pour. Voilà. Mais c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est quand même énormément de gens. Qui n'avait pas forcément de backup d'ailleurs. C'est peut-être l'occasion de rappeler qu'avoir des protocoles d'urgence et des backups, même quand on a un data center qui n'est pas chez soi, c'est important. Après, on peut blame l'hébergeur autant qu'on veut, mais ça ne nous ramènera pas à les données. Mais il y a ça, il y aurait pu avoir des accidents. Heureusement, personne n'est blessé ou personne n'est mort, etc. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et je crois qu'il est là en ce moment pour ceux qui ont un serveur qui est down chez OVH, parce que mine de rien il y en a énormément. J'étais halluciné de voir sur Twitter ce matin, je scroll et je vois, mais vraiment j'ai vu 4 ou 5 boîtes qui mettaient des tweets en mode on est down, enfin voilà, on a plus de site, quoi. Oui. C'est fou de se rendre compte que OVH est quand même
chez
mon pas petit,
chez la société de sous-traitants. J'étais en déplacement là aujourd'hui à Angers.
Ouais.
J'entendais leur service, tu vois, après-vente, en disant oui, notre site est down, il y a eu un incendie.
Ouais,
tu vois, c'est réel, c'est,
ouais, c'est
les conséquences sont assez immédiates.
Ouais, c'est ça, il y a des vrais.
Pour Amixem avec SpaceFox.
Ouais, pour Amixem. data.gouv.fr, j'ai vu Yesouillac. Là, c'est juste ce que j'ai vu passer ce matin, mais il y en a énormément. Donc, ouais, comme tu dis, c'est assez dingue de faire le lien. On a un côté très. Déconnecté des serveurs de où c'est physiquement. Non,
mais une grosse majorité des gens ne savent pas, en fait.
Voilà, c'est ça, on se dit c'est le cloud, en fait. Et non, ouais. Non, en fait, t'as un incendie à un endroit, ça fait tomber ton site web sur lequel tu vas tous les samedis.
Donc là, donc, tous ceux qui ont un site, tous ceux qui ont un site web, faites des backups et testez vos backups.
Voilà.
C'est tout.
Très important. Et ouais, non, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'OVH, mine de rien, c'est quand même une des belles boîtes. Bah, on citait justement les boîtes un petit peu compétitives qu'on peut avoir en France et en Europe.
OVH est un gros client.
Ouais. C'est une fierté nationale.
Bah voilà, OVH.
Si tu regardes, enfin Octave, il a dû passer une sale nuit, quoi. Moi, je regardais ses tweets ce matin,
ouais.
Et tu voyais que toute la nuit, tout était, il faisait des updates sur la situation et tout.
Alors ça, c'est franchement, c'est un des trucs où ils sont remarquables, OVH, quand même. On peut les critiquer comme on veut, mais sur la transparence, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, des cyberattaques ou des choses comme ça, ou là, des soucis vraiment physiques, quoi. Ils communiquent très très bien, c'est quand même assez remarquable pour le dire.
Ils communiquent beaucoup de fou. Octave est un gars passionnant, il a un blog, c'est sur le blog d'OVH je crois directement, où des fois il raconte la vie de la boîte, mais des trucs assez privés en fait, ouais. Que normalement, enfin je sais pas, des grosses boîtes comme ça, il raconte.
C'est un magazine à l'époque.
Ouais. Peut-être qu'on pourrait essayer
de
la voir.
Bien.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous seriez intéressé pour avoir monsieur Octave Clabat ? On va essayer, on vous promet rien, mais on va faire ce qu'on peut. Donc on souhaite bonne chance aux équipes d'OVH. Si vous avez un serveur qui est down, vous pouvez aller sur son Twitter, il met des updates hyper régulières. Il y aura peut-être prochainement, pour l'instant, tout à l'heure il n'y en avait pas, mais des dates ou des choses comme ça, que vous pourrez savoir quand vos serveurs vont revenir et si vous pourrez récupérer des données que vous aurez éventuellement perdues. On passe à la petite actualité suivante, qui est une activité plutôt de type sympathique. Je ne sais pas si vous aviez entendu une histoire qui remonte il y a 1 ou 2 ans où il y avait une entreprise qui vendait des, ce qu'on appelle des cryptophones. Et ce sont des téléphones dits sécurisés par défaut. C'est-à-dire que là où toi, tu peux acheter un téléphone grand public, installer une application de messagerie chiffrée, tu as des gens, on va parler de qui sont ces gens après, parce que ce n'est pas n'importe qui, eux, ils préfèrent payer très très cher, mais être vraiment sûr à 100%, on va voir que ce n'est pas forcément 100%, que leurs données sont safe. Donc, c'est-à-dire que,
dans le téléphone.
Exactement. C'est-à-dire que concrètement, ça va passer par des trucs très concrets. Par exemple, tu peux avoir la caméra ou le GPS qui vont être matériellement cassés dans le téléphone pour éviter au maximum d'être piraté, d'être traqué, etc.
Ah, mais c'est les boîtes comme Librem ou...
Alors, il y a ça. Là, le nom que je pense beaucoup de gens ont peut-être entendu il y a quelques années, c'est EncroChat.
Oula.
Pourquoi ?
Oula.
C'est...
Le branding incroyable.
EncroChat. Pourquoi ça a fait énormément de bruit ? Parce que, en gros, concrètement, les forces de l'ordre se sont rendues compte que ces appareils-là, donc les cryptophones, qui étaient quand même vendus 1000 euros pièce avec un abonnement 3000 euros à l'année, je crois.
Ah oui !
Enfin, 1000 euros pièce avec un abonnement à 3000 euros à l'année. Et c'est quoi comme genre de téléphone ? Enfin, c'est genre c'est un smartphone
je crois qu'il,
qui marche très très bien ou c'est genre un smartphone
pro ? En fait, il récupère un iPhone ou un Android, un truc comme ça, qui customise, etc. Okay.
Donc ça reste c'est un téléphone...
Attends, mais à ce prix-là, le téléphone, il doit t'envoyer en vacances, là. Enfin,
mais tu vois, tu connais les téléphones Vertu ? C'est Vertu, je crois, la marque.
Non, c'est bien.
Les téléphones Vertu, c'est les téléphones de riches, où en gros, c'est des téléphones pourraves, au point de vue hardware.
Oui, c'est des Nokia 3310,
c'est pas dingue, mais c'est genre des téléphones où dedans, t'as des trucs plaqués en croco, enfin,
ça n'a aucun sens. C'est un test de QI gratuit, ça.
Ça n'a aucun sens. Et c'est vraiment des téléphones qui coûtent genre 4000 balles, mais avec rien, enfin, avec pas du tout le meilleur téléphone, quoi.
Là, c'est pas ça. C'est ça ressemble, le but c'est aussi que ça ressemble à un téléphone.
T'as trouvé Nico, assez trop critique. Fort.
Ouais. Ça ressemble à un téléphone de tous les jours, voilà. Mais quand même, ils démontent, ils font des modifications. Ils ont des puces, enfin ils vendent beaucoup de choses en tout cas. Quand tu vas sur leur site, ils te vendent énormément de choses. Ils mettent un peu de lyrisme, c'est-à-dire qu'ils parlent de défense de la vie privée, de vendre, enfin en fait ce téléphone il est pour les journalistes, ou les lanceurs d'alerte qui sont malheureusement brimés par leur gouvernement. La réalité, c'est que ces boîtes-là, notamment SkyHack, qui ressemble un petit peu à EncroChat, en fait, sont utilisés à 99% par des criminels. Voilà.
Oui.
Ah, nice.
Donc, en fait, elles ont souvent des devantures assez sympas, mais derrière, en fait, c'est totalement utilisé par tous les réseaux criminels et pas les et ceux qui ont un peu de budget. Parce que
un peu comme le Bitcoin au début, en fait.
Oui, c'est et pas même, c'est et pas même pas toujours. Le, c'est pas le mec
voilà,
qui vend
sauf
du
sauf que là, il n'y a pas une entreprise privée qui toi, fait semblant que... voilà.
Ouais. Oui, c'est pas le mec qui vend du shit en bas de chez toi,
voilà,
c'est les mecs qui sont des criminels.
Exactement, quand t'as quelques milliers d'euros à mettre par an en privacy, c'est que t'es bien dans le game, quoi.
Sinon, le Lika mobile, ça marche vachement bien.
Tu peux faire du conseil en cybercriminalité. Ce qui s'est passé, pourquoi ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque en EncroChat et pourquoi on entend encore parler à nouveau de ces fameuses boîtes-là, c'est parce qu'ils s'étaient fait infiltrer. Mais comme jamais. Donc, EncroChat, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Mais en gros, concrètement, plus ou moins tout le réseau était sur écoute.
Est-ce que ça dépend pas de l'opérateur, ça ? Enfin, moi, j'ai ces questions con, mais ton réseau, en fait.
Non, parce que en fait,
ton mobile, il a un impact, mais ton opérateur.
Pas le réseau, mais en fait, c'est des messageries ou du téléphone qui passent par Internet, donc tu as du chiffrement, etc. Donc non, mais ça ressemble plus à Signal. Qui serait installé sur un téléphone un petit peu optimisé pour la vie privée, tu vois, c'est pas non plus, voilà.
En fait, mais, c'est un signal Wish, c'est ça ?
Voilà, c'est un peu ça. Mais sauf qu'ils ont une particularité quand même, ces téléphones, c'est qu'ils sont vraiment gérés par une entreprise privée, et notamment les mises à jour sont faites, pas par Apple, pas par Google, mais t'avais vraiment des mises à jour qui pouvaient être envoyées par l'entreprise EncroChat. Et c'est comme ça que la juridiction française, main dans la main avec les Néerlandais, ils ont saisi les serveurs. Alors, si je me souviens bien des détails techniques, hein, ils ne pouvaient pas déchiffrer les messages parce que tout le monde se dit, mais comment c'est des trucs qui sont vendus comme étant inviolables, tu vois, 100% inviolables, tu payes 3000 balles pour ça, comment ça se fait que la police puisse te mettre sur écoute ? En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas cassé le chiffrement lui-même parce que ça, c'est impossible. Souvent, comme dans ce cas-là, c'est des moyens détournés en réalité. Et donc là, ils ont envoyé une mise à jour sur le téléphone de tout le monde. C'est-à-dire que c'était le point le plus critique, c'était à cet endroit-là, c'était sur le serveur de EncroChat, et comme c'est des gros cracks nos gendarmes, et ben ils ont fait une mise à jour, ils l'ont push, et ils avaient des mouchards sur tous les téléphones.
Bien.
Et donc ils ont fait un coup de fil monumental, et dedans tu avais vraiment la crème de la crème, en termes de mafia, en termes de... Enfin voilà, c'était honnêtement... C'est... Allez voir, il y a des articles...
Le Jacques Mesrine de 2021, quoi.
Ouais, allez voir les articles.
Les Jacques Mesrine.
Et le détail, surtout si, ça vous intéresse un petit peu la partie technique, c'est passionnant, la façon dont ils ont mené cette enquête. Et là, c'est rebelote.
Ça fait un deuxième sujet de vidéo en enlève, là.
C'est vrai que je peux revenir dessus, potentiellement, si ça intéresse les gens. Donc là, c'est rebelote, pas avec EncroChat, mais avec SkyECC. Donc rebelote, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et honnêtement, c'est toujours intéressant de voir comment... Malgré les chiffrements, etc., on redouble d'ingéniosité.
Mais ça, les gens se font des montagnes en disant oh là là, c'est super chiffré, il va falloir qu'on loue un super computer, que la gendarmerie fasse des trucs de fou à 300 millions. Ils vont prendre une clé de 12 à 5 balles, ils vont taper sur le mec qui a la clé et puis t'es terminé. Quoi.
Voilà, 9 fois sur 10, ils vont faire un phishing ou de l'ingénierie sociale. Et en fait, ça va fonctionner aussi bien, voire mieux et plus rapidement. Donc voilà, ça fait plaisir comme petite nouvelle. Et enfin, dernière information peut-être un peu moins plaisante, c'est un énorme leak d'une entreprise de caméras de surveillance qui se sont spécialisées dans les caméras de surveillance avec des technologies de reconnaissance faciale, d'intelligence artificielle, etc. Et donc c'est intéressant, je vois un tweet d'un mec sur Twitter aujourd'hui qui nous explique qu'il n'y a pas de surveillance de masse sécurisé, ça n'existe pas. Et on en a une démonstration aujourd'hui, du coup, avec cette énorme fuite de données d'une entreprise qui s'appelle, je vais vous dire son nom, Verkada, qui se sont fait pirater en fait. Et les pirates ont eu accès à des milliers de caméras en direct et ont pu siphonner toute la base de clients. Et dedans, il y avait quand même, ils ont noté plus de 24 000 noms d'entreprises. Alors c'était pas des caméras chez des particuliers, tu vois. C'était, ils ont pu observer en temps réel Tesla, des prisons, des hôpitaux, etc. Donc voilà, ils ont pu s'amuser, les pirates. Ils ont contacté directement le motherboard. Ils leur ont expliqué un peu tous ces détails. C'est pour ça qu'on le sait. Mais c'était des caméras en plus qui allaient vraiment loin dans la surveillance et qui étaient capables de détecter des mouvements de personnes, classifier tous les derniers jours. Les personnes par genre, par la couleur de leurs habits, tu vois, enfin voilà, on est quand même sur des technologies qui paraissent complètement lunaires et qui commencent à arriver pour de vrai, voilà, qui existent pour de vrai. Donc ouais, faisons attention peut-être, hein, parce que là quand tu centralises autant de données critiques, c'est peut-être qu'il fallait
rien factuellement,
peut-être qu'il fallait pas les données critiques de base, voilà.
C'est une belle morale,
il y a rien,
c'est
de
une belle morale.
T'as rien qui est 100% safe, ça n'existe pas, tu vois.
Donc questionnons-nous sur est-ce qu'il faut vraiment, est-ce qu'on en a vraiment besoin à l'origine déjà, est-ce que, enfin bref, c'est un sujet hyper intéressant dont on pourra débattre bien plus longuement à plein d'occasions. Et puis voilà, c'était mes petites actus. Je sais pas ce que ça vous intéressait un petit peu.
Très sympa. Moi le truc très des sympa. Téléphones, franchement, grave intéressant.
Pour une vidéo.
Ah ouais. Bon. En fait, je reste sur ma fin. Genre, j'ai trop envie qu'on creuse le truc. J'ai trop envie d'en savoir plus. Parce que t'as un vrai storytelling autour de ce truc-là qui est dingue.
Mais c'est une série Netflix, hein, bientôt.
Ouais, franchement, ouais. Tu peux en faire un. Mais non, mais vraiment, tu peux en faire une série.
T'as un potentiel, film. Effectivement.
C'est vraiment, c'est incroyable, mec.
Ouais. Est-ce que pour clore ce magnifique épisode, est-ce que vous avez une petite recommandation, un truc. C'est pas obligé, c'est facultatif.
J'en ai une.
Vas-y.
Obvious de ouf.
N26. Ah oui, bah oui. Mais alors, Jean est la personne qui est le plus en contact avec nos chers sponsors et nos chers partenaires, en fait, parce que plus que des sponsors, ils nous accompagnent sur vraiment la création des épisodes.
Oui, et puis c'est surtout, ils ont envie d'une émission. Ils sont pas juste là pour dire salut, on est N26. Ils ont envie d'une émission qui parle d'IT, de pouvoir recevoir des personnes comme Stan, où on va parler de sujets qui sont pas de l'ultra divertissement, mais qui sont ton domaine, en fait, qui sont de l'IT, tout ce qui est cybersécurité, développement, etc., etc. C'est ça qui est trop cool, en fait.
Ils sont à l'origine même du truc, c'est-à-dire que voilà, c'est même pas qu'ils arrivent en cours de route, c'est que j'aurais probablement.
Ils sont la proposition, même, voilà, presque, de l'émission.
Dans l'ordre historique, ça s'est passé comme ça. Donc merci énormément à N26 pour leur soutien. Vous avez des liens qui passent dans le chat, vous pouvez faire !N26 et vous pouvez aller voir la petite page customisée des familles de Underscore. Et voilà, envoyez-leur le. Oh, incroyable, merci Kiradric. Envoyez-leur de la force parce que voilà.
Envoyez des bisous à César sur le compte N26FR sur Twitter.
Sur Twitter.
Vous pouvez dire que ça vient de moi, il comprendra.
Il serait content.
Il sera très content.
Est-ce que tu as une petite reco, peut-être un site que tu as vu ou un outil, un truc. Tu peux faire des trucs un peu techniques ou des trucs comme ça.
Ouh là là.
je te prends de court, j'ai l'impression.
Non, bah, je pense que le plus gros conseil que j'ai à donner, c'est franchement, renseignez-vous sur l'AR et la VR. Ça fera partie de nos vies. Tu vois, la VR, c'est le meilleur storyteller comme médium.
L'AR, c'est un coup de mou, ouais, j'ai l'impression. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a eu un coup de mou après la hype.
Il y a une méga hype.
Il y a un moment où sur tous les PC, pour dire qu'il était puissant, on mettait VR à la fin. Je sais pas si vous
souvenez,
tous les PC portables. VR Ready, c'est pour dire.
C'est Intel Inside de la VR.
Ouais. Et il y a eu un coup de mou.
Voilà. Mais là, les usages sont là.
Ouais.
Les usages sont enfin là. T'as Facebook qui évangélise la moitié de la population de la Terre à coup de milliards de dollars de Mark Zuckerberg pour expliquer ce que c'est que la VR et la mettre.
Moi, je commence à voir des. Bah là, le petit blanc.
Je dis pas que c'est bien. Je dis pas qu'il faut acheter un Oculus. Je dis juste qu'il y a des efforts qui sont faits par des entités titanesques.
C'est un signe non négligeable que.
Il se passe quelque chose. Voilà. Donc, je vous conseille de vous renseigner là-dessus. C'est génial. Si vous êtes intéressé par. Si vous êtes dans l'audience de Micode, je pense que ça vaut le coup que vous creusiez un peu ces histoires d'ARVR. Mon message, c'est que moi, je travaille là-dedans et vraiment tout le monde peut bosser là-dedans. Il suffit d'un peu de passion. C'est pas si compliqué.
Ouais. C'est quoi comme technologie?
En plus, nous, on va recruter bientôt. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés dans. Parmi nous.
Merci en tout cas énormément déjà à vous d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à vous aussi d'avoir accordé votre temps. Stan, c'était un énorme plaisir honnêtement. Ça faisait bien longtemps que je voulais qu'on se revoie. Et puis, quoi de mieux que Underscore.
Ouais. Non mais voilà, on va t'aider pour amener d'autres gens ici.
Ce que Stan m'a dit, c'est qu'il pourrait me filer des coups de main pour amener des gens de plus en plus.
Je pense qu'on a parlé de Octave Klaba tout à l'heure.
Voilà.
Mais mais c'est super ce que vous faites ici. Le format est cool. Je pense que ça doit plaire à pas mal de gens. Il y a un vrai boulevard, il y a une vraie occasion pour faire ça. En fait, ce qui est triste, c'est que ça n'existe pas vraiment ou trop peu. Et vraiment, parler de la tech aux jeunes et aux moins jeunes, c'est toujours important. Et comme tu le dis, à cause des dérives qu'on voit aujourd'hui. Donc, moi, je te soutiens à 100% avec mes petits bras. voilà, mais voilà, c'est top.
Non, ça fait trop plaisir.
Ça fait plaisir de voir tout ce que tu as fait.
Trop bien. Et bah, merci à Jean également pour son petit passage des familles.
Ouais, bon,
les gens te voient ponctuellement.
Bon, on me reverra. Tu devais pas. Attends, il y a un truc. Jean tu devais teaser quelque chose.
Je devais teaser en fin d'émission. Jean est la star de ma prochaine vidéo.
Oh là là.
On fait quoi?
Oh là là.
Et on va se dire au revoir juste après. Où je fais un bot Tinder
en utilisant ma gueule,
en utilisant la gueule de Jean.
Et merci Mickaël.
Il y a un sens, c'est pas juste pour faire un maximum de matchs. On fait des expériences sociales hyper hyper marrantes sur Tinder. Et j'ai pas encore les résultats et je vais vous les montrer sur YouTube bientôt. Mais on s'amuse comme des ouf. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, à la prochaine.
Salut, hein. Merci beaucoup.
Et bah merci à toi mec, et bonne soirée à vous tous.
Ciao ciao.
Tchuss.
À la prochaine.
Ciao. Bye.